Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va réfléchir un petit peu ensemble sur ce thème du doute qui empoisonne la vie de beaucoup de gens, qui casse la tête souvent. Encore tout à l'heure, juste avant de décoller dans l'avion, alors il y a un jeune homme qui m'a téléphoné. Il m'a dit qu'il a rencontré une jeune fille il y a depuis 2 ans et qu'il était bien avec elle et tout, mais que lui il est Cohen. Et qui s'est rendu compte que peut-être que la jeune fille avait un passé un petit peu mouvementé. Alors ça fait un doute dans la relation. Après il a voulu arrêter. Après il a trouvé un rap qui a permis qu'il se marie quand même. Mais lui il a des images dans la tête, alors ça le dérange. Alors il ne sait pas, il avance dans le mariage. Ils prendront pour prendre la salle et l'orchestre et tout. Et il a une ramba dans le cœur. Il a un doute. Et ce doute il lui casse la tête et ce doute il empoisonne. Mais en même temps il s'accroche et il veut avancer avec la fille d'un autre côté. Il a des images qui le dérangent. Alors comment il va faire? Ça veut dire que juste avant de venir faire le cours sur le doute, encore un problème de doute. Encore. Oui. Et mardi soir, il y avait un couple qui est venu qui devait donner le get cette semaine. Alors ils sont venus, ils m'ont envoyé un email. Après ils ont dit on vient vous voir. Ils sont venus. Alors au Hachem, on a parlé 1 heure, ils ont annulé le get. C'est pas mal déjà. Après 3 ans de bagarre. Mais quand même, il avait le doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera? Ça ne marchera pas? Ça veut dire que le doute, c'est une maladie. Oui. Au départ, c'est un problème intellectuel. Des fois, c'est un problème émotionnel. Après, quand ça dégénère, ça devient une obsession. Après, ça devient une phobie. Après, ça devient une maladie. Après, ça devient des tocs. Les gens, ils vérifient 4 fois s'ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Mais ils vont voir quand même. Peut-être que je n'ai pas fermé la porte, je vais vérifier si elle a fermé la porte. Après, ils disent, je l'ai appelé, je ne l'ai pas appelé. Est-ce que je l'ai appelé? J'ai oublié de l'appeler. Est-ce que je l'ai appelé? Mais en réalité, ça devient une maladie sur la base de quoi, en fin de compte? C'est ça le vrai problème. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le terrain du doute, il est aussi grave que le problème du doute lui-même. Maintenant, on n'a pas l'habitude d'aller chercher dans les livres de psychologie, puisque moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, les références que j'ai, elles sont dans la Torah. Et qu'on voit que, bon, prochain, on n'a pas attendu Freud pour essayer de comprendre comment marche l'homme à l'intérieur de lui-même. Alors, il y a un texte incroyable. Quand c'est marqué comme ça, « Vaikra Shema Makom Massa Omeriva », il a appelé cet endroit-là « Massa Omeriva ». Massa Omeriva, c'est un endroit de querelle. Al-Riv Béné Israël, sur la querelle des Béné Israël, Ve'al Nesotam et Hachem, et sur le fait qu'ils ont éprouvé Dieu, les morts en disant, Ayesh Hachem Bekirbedou Imen. Est-ce qu'il y a Hachem parmi nous ou non? C'est-à-dire que les Béné Israël, à un moment, ils sont sortis d'Égypte, ouais, ils ont eu tous les miracles qu'ils ont eu, mais ils ont eu un doute. Ils ont eu un doute. Alors ils ont demandé, est-ce que Hachem Bekirbedou Imen? Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Alors le Ravolbe, il demande, il dit, mais je comprends pas, ils ont eu les miracles d'Égypte, ils ont tout eu. Comment il peut avoir ce doute? D'accord? Maintenant, on a déjà fait plusieurs fois ce parallèle. Et il faut bien arriver à comprendre qu'à chaque fois qu'on parle d'une action, d'une histoire qui s'est passée à l'intérieur de la Torah, que la Torah, elle parle en même temps au niveau individuel et en même temps au niveau collectif. Et que déjà plusieurs fois, on a expliqué que quand la Torah, elle parle de Mitzrayim, elle parle de l'Égypte, que Mitzrayim, c'est la même lettre que Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites. Et que Paro, Pharaon, ouais, Paro, c'est les mêmes lettres que Péra. Et Péra, c'est la mauvaise bouche, c'est la mauvaise voix. C'est-à-dire que la grande prison qu'était l'Égypte, dans laquelle le peuple était enfermé, elle correspond à la petite prison personnelle dans laquelle chacun nous sommes enfermés. Et chacun, nous avons notre Pharaon personnel, qui nous donne les mauvais conseils, qui nous casse, qui nous emprisonne. Maintenant, quand Hachem est venu, il a fait sortir les béné Israël d'Égypte. Alors, comment? En donnant la Torah au Béné Israël. Alors, nous aussi, nous sommes libérés de notre Égypte personnelle en recevant la Torah. Ça veut dire qu'on a des limites intellectuelles. La Torah, elle nous libère de nos limites intellectuelles. On a des limites émotionnelles et psychologiques. Oui, parce qu'on convoite, parce qu'on est intéressé, parce qu'on est coléreux, parce qu'on est méchant, parce qu'on est tordu, parce qu'on veut les biens des autres. La Torah nous a donné des lois pour ça. Ne convoite pas le bien de l'autre, ne sois pas dans la colère, ne sois pas dans la haine. Tout ça, c'est quoi? C'est pour sortir de ses limites, on veut dire psychologiques ou psychiatriques. Il y a des limites dans la matérialité, parce qu'on est attiré par la nourriture, parce qu'on est attiré par le décolleté de la voisine. Alors la Torah, elle a donné aussi des règles de kedusha, de sainteté. Velo tatouro acharei levavchem, vous ne détournerez pas après votre cœur. Et tu ne dois pas regarder la femme de l'autre, et tu ne dois pas t'intéresser à des choses matérielles, et tu dois faire une bracha avant de manger, et tu dois faire une bracha après manger, et tu dois vérifier la cache-croûte de ce que tu manges. Ça c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va se libérer de l'emprise de la matière. Donc on est prisonnier de la matière, on est prisonnier intellectuellement, on est prisonnier émotionnellement. On est prisonnier de tellement de prisons que quand Hachem il a donné la Torah, en fait, il nous a sortis de notre prison. Il s'appelle Yetziat Metzarim, il nous a fait sortir de notre prison pour nous apprendre à ne pas écouter la voix de Pharaon. De Pharaon, c'est la voix du Yetziat.
Ça va?
Donc à chaque fois qu'on va étudier un sujet dans la Torah, on peut l'étudier au niveau communautaire et au niveau historique, parce que ça nous enseigne un enseignement comment ça s'est passé avec le peuple d'Israël, mais en même temps, on peut le regarder au niveau individuel, puisque Adam, Olam Malé, chaque homme, c'est un monde entier. C'est-à-dire que le même schéma qu'on trouve en macroscopique dans l'univers, on va le trouver en microscopique à l'intérieur de la personne. Le même schéma qu'on va trouver entre des pays, on va le trouver entre deux familles, de la guerre ou de la querelle ou des nerfs. Ouais. Pire encore, on retrouve aussi les mêmes schémas à l'intérieur de la personne elle-même. C'est-à-dire que même la personne elle-même, à l'intérieur d'elle-même, elle a une guerre intérieure. Ouais. Elle a un malaise intérieur. Et encore une fois, il y aura une mauvaise voix et il y aura une bonne voix. Une voix qu'il faut écouter, une voix qu'il ne faut pas écouter. Donc ici, comme c'est marqué que les Bnei Israël, ils ont eu ce doute-là, et que le Rav Olbe, il dit, mais je ne comprends pas, ils ont eu la sortie d'Égypte, ils ont eu les miracles, ils ont eu les Anané Kavod qui les protègent, ils ont eu tellement de choses, comment ils peuvent douter? Alors nous, au niveau individuel, c'est la même chose. Comment ça peut nous arriver, des fois dans la vie, d'avoir des doutes? Oui, où il est Dieu? Et qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi j'ai des malheurs? Et j'arrive pas à m'en sortir avec cet enfant? Mais comment tu vois pas les Anané Kavod? Tu vois pas les nuées de protection, tu vois pas qu'Hachem t'a donné une famille, tu vois pas que t'as donné la santé, tu vois pas que t'as donné la parnassa, tu vois pas qu'il t'a donné tout ce bien-là, et toi tu doutes encore. Tu vois pas les Anané Kavod, tu vis en Europe, dans un pays qui est pratiquement musulman, et tu arrives à étudier la Torah, mais c'est un miracle. Tu vois pas les Anané Kavod, tu les vois pas. Ça veut dire que la même question que les Béné Israël se sont posées à une certaine époque, chacun peut se la poser à chaque époque, et nous encore plus, parce que nous, c'est Dieu qui nous a donné des signes en France plus forts que vous, ça s'appelle les dieux donnés, c'est des signes qui sont plus forts que les vôtres, ouais. D'accord? Mais nous, on doit encore voir plus clairement, et j'ai expliqué dans les conférences, je vais donner un cours qui s'appelle Amalek se donne en spectacle. Ouais? Et moi, j'explique aux gens que le problème de Dieu donné, pour l'égoïme, il faut aller manifester, et il faut porter plainte, il faut truquer. Mais pour nous, en tant que juifs, nous, entre nous, on sait très bien le message. Ça fait 3000 ans qu'il tourne le message. C'est pas qu'il arrive ce matin. Pourquoi on ne sait pas? Nous, on ne comprend pas les messages. Donc nous, on doit regarder différemment en tant que juif. Nous, on doit regarder différemment en tant que personne. Vous voyez? C'est exactement pareil ici. Quand c'est marqué que les Bnei Israël ont douté, Ayesh Hashem Bekir Benu, Im En, est-ce qu'Hashem est parmi nous ou non? Vous voyez? On ne peut pas le lire simplement comme une lecture bidon, puisque c'était des gens de grande valeur. Ouais, c'est le Dordéa, ouais. C'est le Dord de la connaissance, pas le Dord debout comme nous, ouais. Le Dordéa. Donc, bon, vous l'avez raté, ça va. Donc, il dit le Rav Olbe, un langage incroyable. Regardez ce qu'il dit. Sheyesh etzel aboresh femidot gevuot meod. Il y a chez Akadosh Baruch Hu deux qualités extrêmement élevées, deux comportements extrêmement élevés. Aeliona nikret en. Celle qui est la plus élevée, on l'appelle en. En, ça veut dire le non, le néant, la négation. Et yesh, c'est ce qui est, c'est ce qui existe. Il dit, mipne she'en lebne adam shum asagaba. Il y a un niveau d'Akadosh Baruch Hu dans lequel nous n'avons aucun lien, aucune perception, ni intellectuelle, ni émotionnelle, ni de niveau. Delet marshava tfisi baklal. Tfisa baklal. C'est-à-dire que dans laquelle la pensée n'a pas d'accès du tout. Amidash niya mista'efet mimena. Par contre, il y a un deuxième niveau qui ressort de la première, du premier niveau. Nikret Yesh, qui s'appelle le Yesh. Ia Chochma Aïliona. Ça, c'est un niveau très élevé. Chesh le Bnei Adam Asagama. Mais dans lequel un homme peut avoir une accessibilité. Un homme peut réfléchir, peut comprendre comment Hachem s'adresse à lui. Veitazot Sheilato Sheldor Amidbar. Et ça, c'était la question qu'avait la génération du désert. Eizomida Sheilakadosh Boukou Maniga Otam. C'est quel niveau d'Hachem qui s'adresse à eux? Est-ce que c'est le niveau très très élevé dans lequel il n'y a aucun accès intellectuel? Ou est-ce que c'est un niveau dans lequel ils ont un accès intellectuel? Il dit, Veshokhenet Bekirvam, Amida Eliona Nikret En. Est-ce que c'est ce niveau qui s'appelle En, c'est-à-dire En, Asaga, il n'y a pas d'accès du tout? Ou Zea Nikret Yesh, ou celui qui s'appelle Yesh, qui est plus accessible, Zoi Chakirak Voa Al Meod. Et ça, c'est une réflexion très très profonde. C'est-à-dire que quand on lit le Passouk, qu'ils ont dit les Bnei Israël, les morts, Ayesh Hashem Bekirbenu Imen. Ayesh Hashem, c'est pas est-ce qu'il y a Dieu parmi nous, c'est est-ce que Dieu pour nous il est Yesh ou est-ce qu'il est En? Est-ce qu'il est accessible ou inaccessible? D'accord? Alors maintenant je rappelle un niveau plus humain, plus proche de nous, qui n'est pas écrit dans le Rav Olbe, et je prends un risque, je verrai là-haut à 120 ans, s'il me met une claque ou s'il me met un encouragement.
c'est que de la même manière, un enfant avec son père, avec sa mère, oui, comment il regarde ses parents? Il voit des gens qui vont être rigoureux, qui vont l'empêcher de faire des choses, qui vont lui imposer des choses. Ouais. Et d'un autre côté, il sait que ses parents, ils l'aiment, et qu'ils l'adorent, et qu'ils l'ont mis au monde, et qu'ils veulent son bien. Mais c'est difficile, parce que lui, maintenant, il veut sortir ce soir. Et son père, il lui dit non. Ouais. Ou il le punit parce qu'il n'a pas travaillé à l'école. Maintenant, s'il prend la partie qu'il voit de son père, alors lui, il dit, ouais, mon père, il est méchant avec moi, il ne m'aime pas. Mais s'il prend la partie qu'il ne voit pas, ouais, celle-là, il dit, c'est qu'il est. Ouais, c'est pour ça qu'il va envoyer balader son père, et après il va dire à ses copains, j'ai un père de folie. Ouais, il va dire, il veut pas parler avec son père, après il va dire à sa mère, qu'est-ce qu'il a dit papa? Qu'est-ce qu'il en pense papa? Il est content de ce que j'ai fait et tout ça. Donc ça veut dire qu'un homme, toute sa vie, il est en lien avec un père qu'il voit et un père qu'il perçoit. Un père qui comprend, un père qui comprend pas. Maintenant, plus tard, lui-même, quand il sera père, il comprendra le père qu'il ne comprenait pas. Vous suivez cette logique là, non? Ouais. Comme le professeur, il est derrière cet élève, allez, travaille, fais tes devoirs. Il dit, ouais, à l'autre, il ne lui dit rien, à moi. Parce qu'il sait que toi, tu as un potentiel, alors il te fait travailler. Alors que l'autre, déjà, il est devenu une excroissance de radiateur, alors il ne s'occupe plus de lui. Donc toi, tu te plains qu'il s'occupe de toi, ouais. Mais c'est l'autre qui devrait se plaindre qu'il ne s'occupe pas de lui. C'est que la vie, c'est comme ça. Il y a une partie que tu perçois, une partie que tu ne perçois pas. Maintenant, toi, tu es dans le doute. Tu es dans le doute, laquelle partie d'Hachem qui s'occupe de toi? Ouais, c'est-à-dire toi, hein, quel lien avec quel lien tu dois entretenir, avec quel être, quelle perception d'Hachem tu dois entretenir un lien. Est-ce que c'est avec une perception que tu perçois intellectuellement, que tu comprends, et qui à la limite qui est adaptée à toi parce qu'elle est rationnelle, oui. Ou alors non, tu dois développer un lien avec quelque chose qui est irrationnel. Ça veut dire que celui qui va développer un lien avec cette perception d'Hachem qui s'appelle Yesh, qui est rationnelle, il va avoir des problèmes, c'est que quand la vie elle sera incohérente, il va devenir fou. Quand il va arriver des malheurs qu'il n'attend pas, il va craquer. Ouais. Quand il va pas recevoir ce qu'il attend, il va craquer. Quand il va faire du bien, il va lui arriver du mal, il va craquer. Parce que lui, il a créé un lien avec cette partie d'Hachem qui est perceptible intellectuellement. Donc lui, il croit que comme elle est perceptible, ça veut dire qu'elle est adaptée. Donc il pense qu'elle est adaptée à lui, donc que lui, elle est adaptable. Mais celui qui dit, je sais qu'il y a un niveau d'Hachem qui est plus grand que moi. Ouais. Il y a des choses que je ne comprends pas. Alors il accepte. Il va accepter comment il va faire. Ça veut dire que la nature du doute et la gestion du doute, elle ne sera pas du tout pareille selon le lien que j'entretiens avec Hachem. Donc si j'ai une émouna intellectuelle, d'un côté c'est bien parce que je réfléchis, mais c'est dangereux. Parce que s'il m'arrive quelque chose de très lourd, ouais, vous savez, les intellectuels, à la Shoah, ils sont devenus fous. Et les gens qui avaient une émouna, à la Shoah, ils sont restés croyants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune logique intellectuelle à la Shoah. Il dit le Razonich, il dit, à partir d'un certain niveau d'horreur, il est interdit de réfléchir. Ça veut dire que ce n'est plus une question de réflexion. Les gens, ils disent, oui, je veux réfléchir, je veux trouver une raison, ils méritent, ils ne méritent pas, les enfants, les trucs, ils meurent, c'est ça, un guilgoul. Il y a un million d'explications possibles. Mais le Razonich, il dit, ne commence pas à réfléchir, tu vas devenir fou. Donc à ce niveau-là, ça c'est une perception du HM de haine. C'est pas Yesh. Vous me suivez ou non? Maintenant, il y a des perceptions d'Hachem de Yesh, c'est-à-dire qu'on voit, on voit quelqu'un, il a fait du mal, il reçoit du mal. Quelqu'un, il sait qu'il a fait des bêtises très graves avec une autre femme. Alors, il voit que maintenant, il a des problèmes de Shalom Bayit. Mais sa femme, elle n'est pas au courant. Mais lui, il a des problèmes de Shalom Bayit. Mais lui, il sait pourquoi. L'autre, elle ne sait pas pourquoi, mais lui, il sait pourquoi. C'est chacun au fond de lui, il sait. Maintenant, le fait de comprendre le lien entre la cause et la conséquence, le fait de comprendre le lien entre les avérotés et les conséquences, ça s'appelle le Yesh, ça s'appelle pas le haine, ça. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Maintenant, les ministres avaient ce grand savec, ils avaient ce grand doute. Et le doute, c'est quoi le doute? C'est un rapport que je dois avoir avec la chose. Quel doit être mon rapport avec les choses? Et toute la vie, on a des doutes. Parce qu'il n'y a pas que le doute négatif, il y a aussi le doute positif. Vous savez, il y a des grands. Par exemple, dans l'éducation des enfants, il y a un gros problème. Est-ce qu'il faut s'occuper des enfants ou il ne faut pas s'occuper des enfants? C'est un gros problème. Des fois, tu t'occupes tellement que tu les empêches de grandir. Parce que comme ils comptent sur toi, ils restent débiles. Des fois, tu dis, mais comment tu peux avoir cette cruauté de ne pas t'occuper? Alors, c'est un mépris que tu as pour tes enfants. Mais en réalité, tu les as à grandir parce que, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur toi, ils sont obligés de devenir giborim, de devenir indépendants. Alors, c'est un doute, mais c'est un doute positif. Alors, il faut s'occuper, il faut faire du doute. Alors, en fait, il faut s'occuper sans s'occuper. Il faut avoir le souci sans montrer à l'enfant que c'est pour lui que tu le fais. Ouais. Mais toi, à l'intérieur de ton cœur, tu vas trembler. Mais tu vas lui dire, tu peux sortir, mon fils, j'ai confiance en toi. Et dans ton cœur, tu vas crever. Ouais. Le rabbi va te téléphoner, il va dire, oui, comment ça se fait que votre fils, il a fait ça? Tu dis, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon fils, je vais parler avec mon fils, mais sachez, monsieur le rabbi, que moi, j'ai confiance dans mon fils. Et tu dois dire à ton fils que tu as confiance en lui. Même si ça s'est passé des choses Tu dis, écoutez, ça peut arriver, tout le monde a été. Tu dis au Rav, même vous aussi, vous avez fait des batailles de polochon à l'Yeshiva. Ouais, peut-être que vous aussi, un jour, vous avez fumé en cachette. Alors mon fils aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il a eu un Yetzera. Mais c'est pas parce qu'il a eu un Yetzera qu'il est devenu maintenant Esav. Ça veut dire que toi, tu dois garder la confiance malgré le doute. Vous me suivez ou non? Mais c'est un doute positif, parce qu'on ne parle pas que le Rav, il est fou. Il veut aider l'enfant. Et toi aussi, tu veux aider l'enfant. Donc le doute, il est positif. Des fois, le doute, il est même nécessaire. Je vais vous dire un truc incroyable. Vous savez, moi, j'étudie le matin, l'après-midi et le soir. Ouais. Après, j'ai commencé à donner un peu des cours le soir. Après, j'ai commencé à avoir des questions l'après-midi. C'était difficile d'étudier. Alors, j'étudie en cachette, j'étudie le matin, après j'étudie un peu l'après-midi, après j'étudie un jour sur deux, après j'étudie dans l'avion, dans les trains. Alors un jour, j'ai été voir un Rav. Je dis, Rav, j'ai un problème. Il m'a dit quoi? Je lui dis, je donne de plus en plus de cours. Il m'a dit, oui, c'est bien. Je dis, oui, mais j'étudie de moins en moins. Parce que c'est dur de faire une travouta quand t'es 4 jours à Montréal et 2 jours à Milan et 3 jours là-bas. Comment tu vas faire? Il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tant que tu as le doute, c'est bien. Le jour où tu trouveras ça normal, ça sera grave. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que ça te dérange. Alors comme ça te dérange, alors tu vas étudier pour compléter, pour tenir le lien. Ouais. Le jour où tu vas dire, je ne suis pas obligé parce que de toute façon moi je voyage, parce que moi je cours, parce que moi je donne des cours, c'est un problème toi. Ça veut dire que le doute des fois il est nécessaire. Le doute il fait avancer la personne. Alors comment on va faire le tri entre le doute qui est positif, le doute qui est négatif, le doute qui est destructeur, le doute qui est dynamique, le doute qui te fait avancer, le doute, chaque juif, vous savez on est un peuple de culpabilité nous, ouais. Quand il arrive un problème, toujours on cherche chez nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce que j'ai fait. Mais cette culpabilité, elle est positive, elle va avancer les gens. Il y a des gens, au contraire, dès qu'il y a un problème, jamais ils imaginent que c'est eux, ils renvoient chez les autres. Ouais, et toi, c'est la faute des autres. Et nous, on prend sur nous, on dit, bon, sûrement j'ai dû faire une erreur, il faut que je réfléchisse et que je grandisse. Donc le doute de culpabilité, est-ce que c'est un doute qui détruit ou est-ce que c'est un doute qui grandit? Maintenant, quand les Bnei Israël, ils ont dit, Ayesh Hashem Bekirminu im en. Est-ce que Hachem est parmi nous? Et donc maintenant, vous avez compris, maintenant on va le lire dans le contexte du peuple Israël qui avait ce doute, on va le lire dans le contexte de l'individu personnel qui a une question. Vous êtes suivi ou non? Ça va? Oui, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quelle était la réponse d'Hachem aux questions des bénis Israël? Tout de suite, c'est marqué, il dit, va yavo Amalek, il est venu Amalek. Tout de suite après, quand les bénis Israël ont posé la question, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Qu'est-ce qui est marqué? Va yavo Amalek, il est venu Amalek. Donc Amalek, il est venu, il a attaqué les béné Israël. Alors il dit le Midrash, regardez bien ce Midrash. Tamid ani benechem. Hachem, il dit, moi je suis toujours parmi vous. Umezuman lekol tzorkechem. Et je suis là, je suis prêt pour tous vos besoins. Ve atem omrim ayesh Hachem bekir menu imen. Et vous vous dites, est-ce que Hachem est parmi nous ou non? Chayechem. Hachem, il a fait une promesse, il a juré. Chayechem. Chez Akelev Ba, que le chien il va venir, Venoshech Etrem, et il va vous mordre, Veatem Tsorakim, et vous allez crier, et là il vers moi, Vetedroun Echan Ani, et vous allez savoir où est-ce que je suis. C'est bizarre la réponse, ouais. Eux maintenant ils ont un problème de doute. D'accord? Alors Hachem il aurait pu leur répondre, ah ben je suis En, ou je suis Yesh, je suis accessible, ou je suis inaccessible. Non, il a dit, ah bon, vous avez un doute. Donc Hachem ne leur a pas reproché la question, il leur a reproché le principe du doute. Comment vous avez un doute? Alors il a envoyé Amalek. Ouais. Et Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué les Bnei Israël. Quand Amalek attaque les Bnei Israël, évidemment, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël quand ils se font attaquer? Ils lèvent les mains au ciel. À cause de vous, je t'en prie. Ah, maintenant, ils se rappellent qu'ils ont un père. Alors le Midrash, il donne un machal. Il dit, c'est comme un papa. Même si vous l'avez déjà entendu, il faut réfléchir dessus. Moi-même, personnellement, j'ai assisté souvent à ce cours, puisque je l'ai donné déjà depuis longtemps. Et je réfléchis encore, et grâce à Dieu, je comprends les nouvelles choses. Donc c'est-à-dire, je justifie pourquoi Hachem il m'a donné un jour de plus à vivre. Pas pour manger un sandwich en plus, c'est pour réfléchir encore. Alors il dit comme ça. Le machal, c'est quoi? C'est un papa qui porte son fils sur ses épaules. Et, attention, le machal, quand les chachamim, ils donnent un exemple, oui, on a déjà compris l'idée. Alors pourquoi ils donnent un exemple? Parce que maintenant, c'est comme si on prend une autre distance avec l'idée, on va la regarder de manière différente. Donc maintenant, c'est comme un père qui porte son fils sur le dos. Il marche dans la campagne. Et le fils, il dit, papa, donne-moi une pomme. Tiens, mon fils, voilà une pomme. Tiens, papa, donne-moi une banane. Tiens, mon fils, tiens, une banane. Tout ce que le fils, il demande, il lui donne. Et il marche comme ça, il rencontre un homme. Et cet homme-là, il voit l'enfant, il regarde l'enfant, qui est donc sur les épaules de son père. Et il lui dit, dis-moi, petit, où est ton père? Alors l'enfant, il dit, je ne sais pas où il est mon père. Alors le père, il dit, comment tu ne sais pas où il est ton père? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a posé par terre, il l'a jeté. Vashlichu me'alav, il l'a jeté de lui. Ou ba kelev, il est venu le chien, venashru, il a mordu. Et à ce moment-là, il s'est mis à crier, papa, papa, ah, maintenant tu appelles papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le peuple d'Israël, on a une histoire un peu spéciale, d'accord? Puisque ça fait à peu près 2000 ans qu'on est persécuté, qu'on aurait dû disparaître 1 million de fois, que dans chaque génération, il y a des gens qui veulent nous détruire, et on est quand même là. Comment c'est possible? Oui, des très grands quoi?
Des très grands avant, des grands.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Par exemple, je pense à surtout la période de l'Inquisition.
Dans toutes les périodes, il y en avait. La preuve, je suis là. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Mais c'est quoi l'idée? Non, très grand, ça veut dire 1m85, c'est très grand. Par rapport à le Chazonich, il était tout petit. Le Ravetzraim est encore plus petit. Le Rabbi Aaron Kotler est encore plus petit. Mais c'est quoi l'idée? Ici, ce qui est marqué, c'est intéressant. C'est que de quoi je parlais? Oui, que quand on dit que l'aîné Israël, que le fils il est sur les épaules du père, ça veut dire que nous, si on a réussi à survivre, ouais, c'est parce qu'on est sur les épaules d'Hachem. Celui qui voit les guerres d'Israël, celui qui voit les massacres, celui qui voit la sauvegarde d'Israël dans chaque génération, celui qui voit les miracles de Pourim, celui qui voit comment les Juifs ils ont été sauvés de là et de là et de là, on voit bien qu'on est sur les épaules d'Hachem. Ouais, celui qui voit la réussite dans le business, il croit parce qu'il est malin, parce qu'il est. Pourquoi il n'y a pas des Pakistanais qui sont malins? Il n'y a pas des Chinois qui sont malins? Pourquoi le juif il a cette parnassa? Parce qu'Hachem il est sur les. Parce qu'il est sur les épaules d'Hachem et Hachem il lui donne. Col sur co, tout ce qu'il a besoin. Mais il y a des gens, ils ont oublié qu'ils sont sur les épaules d'Hachem. Donc quand le goy vient, il lui dit, dis-moi toi, comment tu as eu cette réussite? Dis-moi comment tu as eu cette sauvegarde? Comment tu as eu cette chorma? Alors lui il dit, il a oublié que ça vient d'Hachem. Il a oublié. Ouais, il dit que ça vient de moi. Parce que moi je suis rafin, parce que moi je suis intelligent, parce que moi je suis prix Nobel d'Ahbaba. Et parce que. Mais tu as oublié, Yabrel, que la chorma que tu as, tu l'as pris des Tosfot et du Rachid et de la Gemara. Tu as oublié que la bracha que tu as, tu l'as pris du Shabbat et de la Kdusha et de la Nida. Tu as oublié tout ça? Tu oublies. Ah bon, tu oublies. Alors Hachem, il dit, tu as oublié, alors je vais te jeter. Et le chien, il va venir, et on va voir qui tu vas appeler. Est-ce que tu vas appeler Oppenheimer? Est-ce que tu vas appeler Kant et Goethe? Est-ce que tu vas appeler les doyens de la famille culte et médecine, ou tu vas appeler Hachem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, maintenant, il est dans une situation qui est dangereuse. C'est que quand il développe ses capacités, quand il développe son indépendance, il prend un risque extraordinaire. C'est quoi? C'est d'arrêter de penser que tout ça, ça vient de Dieu. C'est une question que je vous avais déjà donnée, posée, mais on peut la reposer. Le maître Alevi, il a posé cette question, il a dit une chose incroyable. On a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, vous savez ça, oui. Maintenant, quand quelqu'un étudie la Torah, il a deux solutions. Soit simplement il tourne des pages, mais c'est dommage, on aurait pu prendre un ventilateur. Soit il va réfléchir. Maintenant, s'il va réfléchir, d'accord, avec son intelligence, il va comprendre de mieux en mieux. Donc il a deux regards. Soit il va comprendre qu'est-ce que la Torah, elle a dit. Soit il va comprendre que lui, ce qu'il a compris dans la Torah. Maintenant, si lui regarde ce que lui il a compris dans la Torah, il devient orgueilleux. Si lui regarde ce que la Torah elle dit, il devient un serviteur de Dieu.
D'accord.
Si quelqu'un il regarde la Torah pour voir qu'est-ce que lui il comprend, ça veut dire qu'il renforce sa personne à lui, alors il devient un orgueilleux. Mais s'il cherche à savoir qu'est-ce que la Torah elle veut, donc lui il devient serviteur de Dieu. Maintenant le problème c'est quoi? C'est là que la Gemara elle dit que la différence entre le juif et le goy, c'est que à Akum, Adarta de Nafshek à Avid. Le goy, il fait selon son esprit à lui. Alors il dit, le Beta Lévi, il pose une question incroyable. Il dit, plus quelqu'un il va étudier, plus il va comprendre. Plus il va comprendre, plus il va faire parce qu'il a compris. Maintenant, plus qu'il a compris, il le fait selon une logique propre à lui. Cette logique propre à lui, c'est son cerveau. Donc maintenant, il ne sert plus le Dieu, il sert son cerveau. Donc il est arrivé à un niveau du goy qui fait selon ses idées et non pas selon Dieu. Donc ça veut dire que quelqu'un qui étudie de plus en plus, il a toutes les chances de finir goy. Embêtant pour un rabbin. Oui. Donc comment il va faire pour étudier, pour comprendre et pas devenir goy? Seulement une condition, c'est s'il va imprégner son étude de la crainte de Dieu. Ça va? Il va imprégner son étude de la crainte de Dieu. Et bien c'est exactement pareil. Ouais. Quand toi tu as un rapport avec l'autre, toi tu es avec ta femme, d'accord? Maintenant toi tu dis, moi je vais apporter à ma femme. Maintenant est-ce que tu apportes pour toi ou tu apportes pour l'autre? Si toi tu aimes vraiment l'autre, alors à chaque fois, tu devras analyser et donner une nature à ton recette et à ton investissement qui soit orienté sur l'autre. Maintenant, si toi, tu apportes à l'autre pour que ça te revienne à toi, ouais, comment tu le sauras? Parce que tu es déçu parce qu'on ne t'a pas dit merci, parce que tu n'as pas atteint les choses que tu voulais, parce que l'autre, tu vois qu'il n'est pas à tes pieds. Donc en fin de compte, tu vois que ta bonté, elle n'était pas une bonté, elle était une manière d'acheter le service de l'autre. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est dure à analyser. C'est, est-ce que tu l'as vraiment fait pour l'autre ou est-ce que tu l'as fait pour toi? Est-ce que tu as vraiment donné à l'enfant ou est-ce que toi, tu t'es juste débarrassé du stress qui s'était créé par le fait que tu en as? Maintenant, ne viens pas me dire mes enfants ne m'aiment pas alors qu'au fond, tu les as jamais aimés. Parce que pour les aimer, il fallait que tu le fasses pour eux. Alors, c'est exactement pareil. Quand tu fais pour Hachem, quand tu fais pour ton conjoint, quand tu fais pour tes enfants, quand tu fais pour ta cause, ça ne donne pas les mêmes résultats que quand tu fais pour toi. Si les choses, elles sont retournées vers toi, ça ne donne pas le même effet que si les choses, elles sont retournées vers l'autre. Si tu es dans la négation, tu construis. Ouais. Si tu es dans la Messirut Nefesh, dans le sacrifice, tu construis. Mais si tu es dans le profit, dans l'orientation, dans la manipulation, tu ne construis pas. Tu ne construis rien. Tu consommes. Et quand tu as fini de consommer, tu meurs. Maintenant, les consommateurs, ils meurent seuls. Les investisseurs, ils meurent en famille. Parce que les gens qui ont juste essayé de gratter le maximum, les gens s'écartent d'eux. Ouais. Par contre, les gens qui ont essayé de donner au maximum, les gens ne peuvent plus se passer d'eux. Donc ça veut dire quoi? Ce qui est marqué ici, que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie Amalek, ouais, et Amalek, il est le fruit de quoi? Du questionnement. Mais Hachem, il n'envoie pas Amalek pour faire du mal. C'est que l'homme, il a créé Amalek. C'est l'homme qui a créé le terrain d'Amalek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas fautifs sur les doutes que nous avons. Nous sommes fautifs sur le vide que nous avons créé qui a créé le doute. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu viens, tu dis. Tu vois, par exemple, ton fils, il a fait une bêtise. Alors, ton téléphone, il dit, ton fils a fait cette bêtise. Alors, toi, tu dis, mais comment il a pu faire une bêtise pareille? Mais c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est comment ça se fait que tu t'étonnes? Ça veut dire que tu le connais pas. Vous me suivez ou non? Si tu t'étonnes, c'est que tu le connais pas. Si tu le connais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre toi et lui. S'il n'y a pas de lien, il y a la place pour faire des avérotes puisqu'il n'y a pas de lien. Ça va? Donc au lieu de dire « je ne m'attendais pas du tout à ça », j'aurais dû dire « mais en fait, j'aurais pu m'attendre à tout parce qu'au fond, je ne le connais pas ». Mais si toi, tu t'arrêtes, tu dis « moi, alors, qu'est-ce que je sais de mon fils? Qu'est-ce que je sais de ma fille? Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? Où elle est maintenant? Comment elle vit les choses? Comment elle ressent les choses ?» Si tu te poses la question, bah, tu vas dire « je ne sais pas ». Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler, tu vas être en lien, tu vas sortir avec la personne, tu vas faire des liens. Si tu as des liens avec les personnes, comment la personne va faire des bêtises puisqu'elle est liée à toi? Tu veux ou non? Je vous dis une fois un téléphone, j'étais à Genève, le gars me téléphone, « Ah ben j'ai fait !» Moi j'étais en plein Genève en train de marcher dans la rue, le gars il me sonne, il m'appelle, il m'a crié en « ma femme est une sale !» J'ai dit « attends, détends-toi, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Oui, j'ai eu le truc téléphonique, la facture détaillée, j'ai vu, elle est restée 23 heures avec un type. » Je dis « mais, j'ai dit, attends, excuse-moi, rappelle-moi quel est ton métier. » Ah, je suis dans l'événementiel. Rappelle-moi ton emploi du temps. Eh bien, la semaine où je travaille, le dimanche, je sors avec les copains et le samedi, je dors. Tu sais ce qui a marqué dans ton agenda en travers de toute la semaine? Il y a marqué adultère. La place est libre. Servez-vous, ma femme n'est plus mariée. C'est ça ce qui a marqué. Donc, au lieu de réfléchir pourquoi ta femme, elle a pu faire une chose pareille, hein, soi-disant la religion, soi-disant. La vraie question, c'est pourquoi tu as laissé cette place libre, toi? Rappelez-vous, quand les deux mains, elles sont collées comme ça. Quand ils sont collés comme ça, est-ce qu'une troisième main, elle peut rentrer? Donc, tu veux ou non? Maintenant, quand toi, tu es comme ça avec tes enfants, est-ce qu'une troisième personne, elle peut rentrer, un dealer ou la... Ouais. Maintenant, quand toi, tu es comme ça avec toi-même, est-ce que le doute, il peut venir? Est-ce que la dépression, elle peut venir? Est-ce que l'angoisse, elle peut venir? Le vrai problème, vous avez compris maintenant, c'est la distance que j'ai créée, c'est le vide que j'ai créé. C'est dedans. C'est pour ça que, comment ils appellent ça l'égoïme? Ils appellent ça un passage à vide. Vous savez, j'ai eu un passage à vide. C'est là que je suis tombé en dépression. Notre couple a eu un passage à vide. C'est là qu'il y a eu, malheureusement, il a rencontré une personne. Mon enfant, il y a eu un passage à vide. Quand il y a eu le deuil du grand-père, ou quand il a redoublé sa classe, d'un seul coup, quelqu'un lui a proposé des vitamines. Et il a cru intelligent de prendre des vitamines interdites. Donc toi, tu crois que le dealer, il est fautif. La faute, elle est dans le réceptacle. C'est-à-dire la place, le makom qu'on a créé pour que la chose se fasse. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'un Malek ne peut exister que dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la culture du vide. La question, c'est la culture du vide. C'est pour ça qu'un Malek, il a attaqué les Bnei Israël dans le désert. Ça, je vous l'ai dit au moins 20 fois depuis que je suis rentré à Milan. Vous vous rappelez ou non? Les redoublants. Et les nouveaux? Vous savez que les bénis d'Israël ont subi trois étapes. Une étape qui s'appelait l'Égypte, une étape qui s'appelait la terre d'Israël, avec la Torah, et une étape au milieu qui s'appelle le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Maintenant, bizarrement, on a dit que l'Égypte ressemble à une prison. Et bizarrement, cette prison, elle ressemble à l'enfance. Maintenant, bizarrement, la terre d'Israël, quand les bénis d'Israël rentrent en Eretz Israël avec la Torah, ça ressemble à l'âge adulte, au moment où les hommes sont matures. Ils ont eu la connaissance, comme toi, ton fils, tu lui as donné son diplôme d'ingénieur, tu lui as donné sa 5 ans d'yeshiva et tu le maries. Allez maintenant, debrasak, baba, ça y est, rentre en Eretz Israël, c'est-à-dire la terre des adultes. Eretz Israël, c'est une terre pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Parce que Ve'ene Hashem ala Eretz, les yeux d'Hashem, ils sont là-bas. Bitachon, pas bitachon, les avérotes, les mitzvot, tout ce épais, cash là-bas, il n'y a pas de crédit. C'est cash. Ils disent, on peut s'arranger. Non, tu t'arranges. Quand tu enfousses la Eretz, quand tu es en Israël, il n'y a pas. Tu n'es pas adapté, tu dégages.
Ouais.
Donc ça veut dire quoi? Eretz Israël ressemble à la période adulte, où il n'y a plus, on ne s'amuse plus. Tu ne peux pas dire à ton patron, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai donné le prix d'achat au client au lieu de le prendre le prix de vente. Et alors? Bah, il a commandé 200 000 pièces. Et alors? Il a payé les 10% de ta compte. Quoi, vous lui avez donné le catalogue de notre prix à nous, pas le prix de vente. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il manque 130 000 euros. D'où je vais les sortir à votre avis? Là, tu peux plus dire au client, au patron, pour Im Saméar, tu rigolais, j'ai fait une erreur. Non, c'est fini, bah, tu es dans le monde des adultes. Ouais. Tu peux pas dire à ta femme, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, on était là, j'ai pris un verre, et puis elle m'a dit, bon, ben, allongez-vous. Je lui dis, oh, t'es marié, là. C'est pas un film, c'est pas un halom, c'est réel, c'est ta secrétaire. T'es marié, t'as 4 enfants. Donc ça veut dire que le monde des adultes, c'est quand les bénis d'Israël sont rentrés en Israël avec la Torah. Le monde de l'enfance, c'est le monde de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est la prison. T'es enfermé à l'école, t'es enfermé chez tes parents, t'es enfermé dans tes limites, t'es enfermé dans ton corps, t'es enfermé dans tes peurs, t'es enfermé dans tes angoisses. Donc l'enfance, ça ressemble à l'Égypte. La période Eretz Israël avec la Torah, ça s'appelle l'adulte. Et au milieu, il y a quoi? Entre l'enfance et l'adulte, il y a quoi?
Le désert.
Le désert. Le désert, c'est quoi?
L'adolescence.
Va y avoir Amalek. Il est venu Amalek. Amalek, il attaque l'adolescence. Alors, chez un homme, chez un adulte, chez un homme, l'adolescence, c'est une période. Mais l'adolescence, elle n'est pas que dans la période de la vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, ton couple, au début, c'est l'enfance. C'est-à-dire que tu es euphorique, tu sais, super. Ouais. Après, il y a une période plus tard, quand on s'est engueulé, on s'est pris la tête et on s'est réconcilié, où maintenant on a un couple adulte. On arrive à parler, on arrive à échanger, on arrive à être des gens ensemble, on fait les enfants ensemble. On n'était pas l'un à côté de l'autre. Ouais. Mais entre les deux, il y avait une période d'adolescence dans le couple. Ta race, ta famille, ta mère, ton père. Tu me saoules, tu me prends la tête, tu m'énerves, tu t'aimes pas, tu m'aimes pas, tu profites de moi. Donc tu vois, le couple, il était enfant, après le couple, il était adolescent, après le couple, il était adulte. Quand est-ce qu'il vient le Yetzer Hara du divorce? Quand le couple, il est adolescent. Tu crées une société. Au début, c'est l'euphorie. Voilà, c'est super, j'ai trouvé un nouveau produit. Les clients, ils tiennent. Ta, 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 ta. Après, ton meilleur vendeur, il prend le fichier, il crée la même boîte juste en face. Là, tu commences à mourir. Parce que maintenant, il faut assumer, maintenant, il faut payer. La banque ne te suit plus. Monsieur, vous avez vos fonds propres. Il faut réinvestir. Tu prends le risque. Là, c'est ton argent à toi. Alors, la société, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, elle arrive à un niveau de croisière. Ça a pris 5 ans. Ça y est, tu as plein installé. Maintenant, tu peux la revendre 10 fois le prix que tu l'as payé. D'accord. Mais, c'est pas. Donc, tu vois que la société, elle est passée par l'enfance, par l'adolescence. Et par l'adulte. C'est exactement les mêmes cycles. Mais Amalek, il attaque toujours dans l'adolescence. L'adolescence, on l'a dit, elle est venue c'est le désert. C'est pour ça qu'on a expliqué déjà un million de fois que Midbar, en hébreu, Midbar, ça veut dire le désert. Mais c'est les mêmes lettres que Medaber. Il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler avec les parents et c'est maintenant qu'il faut parler avec les jeunes. Et c'est maintenant que tu n'as pas envie de parler. Il m'énerve. Et les parents, non, t'as qu'à leur mentir, de toute façon, ils ne comprennent rien. Ils sont vieux, de toute façon, au fond, ils t'aiment pas, ils te comprennent pas, ils sont pas de la même génération que toi, ils n'ont pas écouté les mêmes musiques que toi, ils te laissent pas vivre, ils te respectent pas, ils croient pas en toi. Tu vois le discours des enfants, ne parle pas avec tes parents. Le discours des parents, pff, écoute, il m'a saoulé, j'ai pas envie de parler avec lui, il m'a trop déçu. Voilà, il renoue pour la 4e fois, j'ai plus envie de lui parler. Donc tu vois, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Il est venu, il a enlevé la communication. Ça, c'est Amalek. Il vient, il enlève la communication. Maintenant, au niveau individuel, c'est l'homme et ses enfants, les enfants avec les parents. Et au niveau communautaire, c'est l'homme avec Dieu. Il coupe le cordon. T'as plus envie de faire la prière. À quoi ça sert tout ça? De toute façon, tu manges dans n'importe quel restaurant, tu vas dans n'importe quelle plage, tu t'habilles n'importe comment. Le Shabbat, tu le fais le dimanche, c'est plus pratique. Donc tu as coupé la communication avec le bon Dieu. Quand tu as coupé la communication avec le bon Dieu, va y avoir Amalek, il vient Amalek. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Amalek n'existe pas. Amalek, il n'est que le fruit du vide que j'ai créé entre moi et le bon Dieu. C'est-à-dire que le doute n'existe pas. Il n'est que le fruit du doute que j'ai créé entre moi et les affirmations. Moi et la connaissance. Moi et l'investissement. Et moi et le respect de moi-même. Et vous verrez toujours que les gens qui ont des doutes ont un problème de respect d'eux-mêmes, ont un problème de connaissance, ont un problème de structure mentale, toujours. Toujours. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme à la fin, tu te demandes, est-ce que là, c'est la question qui m'a déstabilisé, ou la question, elle n'est devenue importante que parce que moi-même, j'avais un terrain qui était fragile. Maintenant, celui qui est très fort intellectuellement, il a une fragilité émotionnelle. Celui qui est très fragile intellectuellement, qui est très fragile intellectuellement, il aura un doute intellectuel. Celui qui est paresseux, il va s'inventer des doutes pour éviter d'avoir à assumer. Donc chacun, il a le problème du doute. Maintenant, la loi du doute, c'est ne cherchez pas la question, elle n'est pas intéressante. Cherchez le terrain qui a généré la question. Parce que je ne suis pas bien dans ma peau, parce que je ne sais pas ce que je veux, parce que je ne sais pas où j'en suis, alors je commence à dire, oui, c'est pas évident, où c'est marqué, qui a dit, à quoi ça sert, de toute façon, où ça va nous mener. Vous savez, c'est le paresseux qui n'a pas envie de se lever, il va trouver des questions. Ouais. Celui qui n'a pas envie d'aller à la synagogue, il va dire, à quoi ça sert la prière. Celui qui n'a pas envie de rembourser ses dettes, il va se demander, est-ce que vraiment, là, j'ai emprunté cet argent? Parce que déjà, il ne veut pas. Celui qui veut jouer au ballon le Shabbat, il va dire, c'est marqué que c'est un sourd. Celle qui veut mettre une jupe très très courte, on dirait une ceinture, ouais, elle va dire, pourquoi les hommes ne se mettent pas en short? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le doute, il n'existe que dans l'espace que je lui crée. Et ça s'appelle un passage à vide. Or, le vide est dangereux. Le vide est dangereux. C'est comme une bouteille, c'est comme un endroit, c'est comme un espace. Toi, tu dois contrôler ce que tu mets dans la bouteille. Sinon, tu ne sais pas ce qui arrive dans la bouteille. Toi, tu dois contrôler ce que tu mets dans ta tête. Sinon, si tu mets pas, tu ne sais pas ce qui arrive dans ta tête. Toi, tu dois contrôler ce qui rentre dans ta maison. Sinon, tu ne sais pas ce qui rentre dans ta maison. Maintenant, tu as des enfants, fais-leur passer des informations, donne-leur des messages, donne-leur de la Torah, donne-leur de l'amour, donne-leur de l'intelligence. Tu dis, non, j'ai pas le temps. Tu ne sais pas ce qu'ils vont attraper. Parce que le vide n'existe pas en physique. Ouais. Quand tu vides la bouteille d'eau, il y a de l'air. Maintenant, est-ce que l'air il sera pollué, est-ce que l'air il sera pur, ça dépend où on a vidé l'eau. Si tu as vidé l'eau à la montagne, ils vont attraper de l'air pur. Si tu l'as vidé dans un tunnel de 1000 ans avec les voitures, il va avoir de l'air pollué. Et c'est quoi l'eau? Ouais, l'eau c'est En Maïm Ela Torah. Maintenant, c'est quoi Bon Rek En Bo Maïm, référence à notre Raham. Ouais. C'est un puits sans eau. Maintenant, si toi, tu as enlevé la Torah de la vie de tes enfants, tu prends un risque, tu ne sais pas ce qui va rentrer dedans. Encore la semaine dernière, un Rav de mes enfants, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, Rav, ton fils, il a fait un truc comme ça, je ne sais pas quoi, ils sont bagarres à coups de chaussures. Je dis, bon. Je dis, maintenant, moi, personnellement, je peux te parler en tant qu'ami, pas en tant que parent d'élève. Il m'a dit, oui. Je dis, tu dis la vérité, il n'y a pas assez de moussa dans ta yeshiva. Il m'a dit, comment ça, il n'y a pas assez? Il m'a dit, mais chaque vendredi, on donne un cours. Je dis, ça ne suffit pas. Même si les enfants ils sont à la yeshiva, il y a la rue, il y a les filles de l'extérieur qui peuvent rentrer, il y a les filles. Aujourd'hui, les filles de séminaire, elles sont sur Facebook. D'accord, non? Les filles de séminaire, c'est-à-dire que les filles qui ne sont pas des séminaires, elles sont toutes nues sur Facebook. Ouais. Mais les filles de séminaire, elles sont sur Facebook. Donc ça veut dire quoi? Je lui dis, je ne crois pas que ta petite demi-heure, une fois par semaine, de « Ah, rabotaille, faites attention, Ebezrat Hashem », ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut... Si tu leur construis la tête avec des rachis, des osphotes et des ranes, il faut aussi leur construire le nefesh avec un peu de moussard tous les jours. Parce que nos enfants sont diabétiques. Ils sont dépendants à l'insuline. Insuline. Comment on traduit ça?
Insuline.
C'est facile. D'accord. C'est quoi le diabète? Le diabète, c'est une maladie qui rend bête. Diabète ou quoi? Non, je rigole. Le diabète, c'est une dépendance au sucre. Le sucre, c'est quoi? Le sucre, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est le contraire de la satisfaction. La satisfaction vient de l'effort. Et le plaisir, ouais, vient de la recherche du plaisir facile. Donc le sucre, c'est quoi? C'est le plaisir facile, qui ne vient pas du travail et sans effort. Parce que quand tu manges un bonbon, tu ne fais pas un effort. Puisqu'on éduque nos enfants à la facilité, parce qu'on leur met des films débiles, on leur met une mode débile, on leur met un langage en texto débile, on leur fait des niveaux d'école débiles. Donc ils deviennent des diabétiques. C'est-à-dire tu as toutes les chances de finir bête. Diabète ou quoi? Ouais. Donc ils deviennent sucodépendants. Ils veulent du sucre, ils veulent de la facilité. Donc on est obligé de leur donner du moussard. La moussard c'est quoi? C'est l'insuline. C'est une ligne que tu leur donnes à leur insu. Elle vient de sortir celle-là, c'est une nouvelle. C'est une ligne que tu leur donnes à leur insu. Bravo. J'ai trouvé un chien qui m'aide même dans les blagues, c'est incroyable. Vous avez compris ou non? L'insu, c'est sans savoir. À ton insu, c'est-à-dire que tu ne le sais pas. Une ligne, c'est une ligne de conduite. Tu leur donnes une ligne de conduite à leur insu. C'est-à-dire qu'ils avalent du moussard, tu leur dis voilà, qu'est-ce que c'est la émouna, qu'est-ce que c'est la patience, qu'est-ce que c'est la force de la prière, qu'est-ce que c'est de respecter l'autre. Et lui, sans le savoir, il s'imprègne d'une ligne de conduite. Et un jour, il aura des réflexes, on va le vexer, il dira, bon, il prendra sur lui. Après, il verra que c'est injuste, il dira, il faut que j'aille au bout du choix. D'où il a appris tout ça? Sans le savoir, parce que tu lui as donné l'insuline, parce qu'il est diabétique. Nos enfants, ils sont rendus diabétiques par la société. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les chances de finir bêtes. C'est ça le diabète. Ouais. Papa, Chazé Shalom, des gens qui sont malades du diabète, que je leur envoie une fois chez les mains. Je vous fais un parallèle rigolo avec la perception qu'on devrait avoir de ça. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est ce qui est marqué ici. C'est que quand l'homme, il n'est pas dans cette recherche-là de combler ce vide, il n'est pas dans cette dynamique de construire, il n'est pas dans cette dynamique de répondre aux questions avant qu'elles se posent, alors les questions vont se poser. C'est parce que la personne n'est pas construite, parce que la personne ne sait pas qui elle est, ne sait pas ce qu'elle veut, n'est pas claire dans ses choix, n'est pas claire dans son judaïsme. C'est pour ça qu'elle est troublée. Hier soir, j'ai fait une conférence. Encore une. Ouais. À Agnières. Agnières. C'est un coin perdu à côté de... Alors, une jeune fille, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Rabbi Chetri, voilà, je voudrais me marier, j'arrive pas à me marier, je comprends pas, j'ai 32 ans. Bon, j'ai fait bac plus 6 ans d'études et je rencontre que des gens qui veulent pas réfléchir, des gens qui veulent profiter, des gens qui veulent s'amuser. Je trouve pas des gens intelligents et tout ça. Bon, je dis vous-même, vous êtes dans la religion. Oui, enfin, je fais Shabbat, mais pas tous les Shabbats. Je mange kasher quand c'est pas trop compliqué. Bon, alors je dis, quel est le problème? Je dis, trouvez quelqu'un qui est comme vous. Elle m'a dit, ah non, mais c'est je comprends pas, je trouve des gens qui sont pas. Mais je dis, mais ils sont comme vous, ils sont incohérents. Ils sont pas incohérents sur la même chose que vous. Comme vous, par exemple, vous êtes cohérent sur la cache-route, mais pas sur le Shabbat. Vous allez trouver quelqu'un qui est cohérent sur le Shabbat, mais pas sur la Sniout. Quelqu'un qui va être malhonnête, mais qui va étudier la Torah tous les jours. Mais vous êtes honnête, mais vous n'étudiez jamais. Donc vous êtes pareil, puisque vous êtes incohérent les deux, mais pas dans le même niveau, pas dans la même incohérence, mais dans le même niveau d'incohérence. Donc vous êtes tous les deux cohérents avec votre incohérence. Maintenant, puisque votre incohérence, vous ne l'acceptez pas, quand vous la voyez chez l'autre, vous la trouvez insupportable. Mais le jour où vous allez accepter votre incohérence, vous allez vous marier avec le même incohérent que vous. Ça va? Ça va? Alors elle m'a regardé comme ça. Juste après, il y en a un autre qui vient. Après les cours, les gens ils posent des questions. Il n'y a que à Milan qui me laisse tranquille, mais là-bas. Donc, il vient après. Non, je lui dis ça comme ça, je vais être tranquille. Donc, il y en a un qui vient et dit voilà, oh j'ai rencontré une jeune fille, ça, on se voit au téléphone et tout. Bon, la fille, elle a fait 4 ans de séminaire, donc elle est très religieuse. Je dis alors. Il dit mais moi, elle me reproche que je ne fais pas le Berkat Amazon. Je dis mais tu mets les tefilines. Mais j'ai le Berkat Amazon, c'est dans la Torah aussi. Oui. Donc t'as un gros problème. Il m'a dit non mais petit à petit je vais revenir, je vais le faire. J'ai pas compris, tu fais tout le reste mais ça je le fais pas. Mais t'as un problème. Alors je lui ai dit tu n'as pas un problème de Berkat Amazon, parce que t'as un problème de... Ouais. C'est comme une montre, elle donne l'heure toutes les heures sauf 2 heures. Je lui ai dit mais je comprends pas, c'est une montre, ouais, mais à 2 heures elle donne pas l'heure. Mais toute l'heure, je lui ai dit mais c'est pas une montre alors. Si c'est une montre mais sauf à 2 heures. Je lui ai dit mais non, elle a fait 4 ans de séminaire, elle peut pas se marier avec un gars qui ne fait pas le Berkat Amazon. Donc ou tu la laisses tranquille, ou tu fais le barquette. Ah, il dit, j'aime pas qu'on m'oblige. Mais personne ne t'oblige, c'est toi qui as été chercher. Comment non. C'est comme si tu vas voir un architecte qui prend 10 000 euros par mois, et tu lui dis, arrangez-moi la cuisine. Le gars, il dit, c'est 10 000 euros. Oh, c'est cher, c'est juste pour une cuisine. Mais tu n'es pas obligé de l'appeler. Tu peux aller toi-même avec un catalogue et prendre des mesures et mettre de la peinture. Tu veux un ingénieur et tu ne veux pas payer. Ils sont bizarres, les gens. Donc là, la tchouva, elle n'est pas sur le barquette Amazon, elle est sur l'incohérence. C'est le terrain de l'événement. Donc il faut chercher le terrain de l'événement. Ici c'est pareil. Quand Amalek il est venu, il n'est pas venu dans n'importe quelle situation. Il est venu parce que c'est marqué que va y avoir Amalek, il est venu Amalek. Vaïlachem Israël, il s'est bagarré avec Israël. Berefidim, à Refidim. Un endroit qui s'appelait Refidim. Refidim, d'accord? Il dit, le Midrash, il dit, Maïlachem Refidim, qu'est-ce que ça veut dire le langage de Refidim? Amar Rabbi Yeshua. Vous êtes là ou non? Amar Rabbi Yeshua, c'est quoi Refidim? Sherafu Yedehem, Sherafu Atzman Midivre Torah. Refidim, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire affaiblir. Rifouille, d'accord? Comme ils se sont affaiblis dans les paroles de la Torah, alors il est venu à Amalek. Je ne dis pas du tout. Il est venu à Amalek parce qu'ils avaient un doute, parce qu'ils avaient une question. La question, c'est le terrain. Oui, oui, oui. Mais c'est quoi le terrain de la question? Le terrain de la question, c'est qu'ils étaient rafouillés d'aimer la Torah. Ils se sont affaiblis dans la Torah. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je me rappelle, à l'époque, je vous avais fait ce développement, je ne sais pas dans quelle mesure vous vous rappelez de tout. Refidim, parce que vous avez bien compris que c'est un endroit qui s'appelait Refidim, d'accord? Alors il a dit, pourquoi il s'appelait Refidim? Parce que Rafou Yedem, mais eux, ils sont arrivés dans un endroit qui aurait pu s'appeler Milan ou Florence. Alors s'ils étaient arrivés à Florence et qu'ils s'étaient assimilés, on aurait dit oui, parce qu'ils ont subi l'influence de l'entourage. C'est bizarre, non? Refidim, ça veut dire Rafou Yedem et la Torah. Maintenant, moi, je vous signe que si les Béné Israël, à cet endroit-là, ils avaient fait une teshuva extraordinaire, ils s'étaient élevés, ils s'étaient rapprochés de la chaîne, Rabbi Yeshua, il serait venu, il aurait dit, ouais, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, Refidim, chez Redifou, ouais, qu'ils ont poursuivi les Divrei Torah. Au lieu des Refidim, on aurait fait Redifim, Rodfim. Et on aurait dit, c'est super, oh là là, quel chokhma de Rabbi Yeshua. Alors, je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas, cet endroit-là, c'était un endroit de rifouille, d'affaiblissement ou de redifoot, de poursuite et de dynamisme dans la Torah. C'est très bien, bravo, vous venez de découvrir que toutes les situations sont des situations où tu peux les utiliser pour grandir ou tu peux les utiliser. Avec cette femme, tu peux faire le paradis ou tu peux faire l'enfer. C'est la même femme. Si tu prends ces différences, tu les utilises, tu vas grandir avec. Si tu prends les différences et tu les rejettes, tu vas mourir avec. C'est la même chose, c'est la même personne. D'accord? Cet enfant-là, il est très sensible. Donc, soit sa sensibilité, ça va être un outil extraordinaire. Il va l'utiliser parce que tu vas lui apprendre à l'utiliser dans une bonne solution. Ou alors, il va être complexé, névrosé, stressé parce qu'il est très sensible. S'il est névrosé, tu diras, il est hypersensible. Et si tu diras, il a une perception des mathématiques qui est presque intuitive. À un tel niveau, à 14 ans, il arrive à développer des équations du 6e degré. Tu diras, mais c'est normal, il est hypersensible. Enfin, je ne comprends pas. Alors, hypersensible, c'est une qualité ou un défaut? Oui, non, oui, non, oui, non. Ça dépend ce que tu fais avec. Toute la vie, c'est comme ça. Ça dépend ce que tu fais avec. Maintenant, eux, Rafou Yedehem Min HaTorah, ils se sont affaiblis. Ça veut dire que quand quelqu'un, il s'affaiblit dans l'étude de la Torah, quand quelqu'un, il enlève la spiritualité de sa vie, quand quelqu'un, il commence à moins réfléchir dans sa tête, quand quelqu'un, il arrête d'entretenir son couple, quand quelqu'un, il n'entretient pas la relation avec ses enfants, il ne s'occupe pas d'eux, il croit simplement qu'il a fait un problème parce qu'il s'est relâché. Il ne sait pas ce qu'il a créé. C'est comme si tu veux faire une blague à un copain et tu fais un trou. Tu sais qu'il passe tous les jours par ici, tu fais un trou. Tu fais un trou de 3 mètres. Tu dis, moi, je rigole. Mais le gars, il s'est cassé les deux jambes. Il s'est enfoncé les vertèbres. Maintenant, il a la colonne vertébrale qui est brisée à deux endroits. Il ne peut plus marcher. Sa tête, elle est à l'envers. Sa mâchoire, elle est tordue. Tu dis, mais moi, je voulais faire une blague. Alors, je te dis, des fois, tu ne vois pas les conséquences de tes actes. Toi, tu crois, tu dis simplement, bon, on s'est un peu calmé, on est un peu cool. Oui, on n'est pas, faut pas exagérer non plus. Tu peux pas le voir. Ça marche pas. Ça pouvait marcher peut-être au Liban, là-bas à l'époque. Il n'y avait pas trop de difficultés, trop d'agressions. Mais maintenant que tu es dans un endroit où il y a tellement d'agressions, tellement d'internet, de shit, d'embrouilles, de rue, de couches avec les filles comme si tu te mouchais. Si l'enfant, il n'a pas des valeurs, mais il va s'envoler. Et toi, tu dis, oh, faut pas exagérer. On n'exagère pas. Moi, toute la journée, mon téléphone, il sonne des gens qui n'ont pas exagéré. Ils n'ont pas exagéré, hein. Et c'est déjà grave. Je ne veux pas, les gens qui exagèrent, ils n'appellent jamais, c'est là, tu ne le vois jamais. Ils sont allongés à la morgue avec de la drogue. Ouais. On parle des gens qui n'ont pas trop exagéré. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que parents, et nous, en tant que personnes, et nous, en tant que juifs, on doit réfléchir. Est-ce qu'on est dans une situation de rafouiller des mina Torah, ou est-ce qu'on est dans une situation de s'élever dans la Torah? C'est ça qu'on a lu dans la paracha Trouma, vous l'avez vu sûrement, Véhikrouli Terouma, ils prendront pour moi la Terouma. Il y a un langage incroyable. Ils disent Teruma, et vous, ils prendront pour moi le prélèvement. C'est tous les prélèvements qu'on devait prendre pour donner au temple, pour construire le Beth Amikdash. Le Mishkan dans le désert, ouais. Maintenant, j'ai lu un hidush incroyable. Le mot Teruma, il s'écrit Tav, Resh, Vav, Memé. C'est les lettres de Torah même. Torah, Tav, Vav, Resh, Vé, c'est la Torah, et même, la lettre même. C'est quoi même? C'est Torah même, ça ne veut pas dire que la Torah c'est la même pour tout le monde. Non, ça n'a rien à voir. Mais même, c'est quoi même? Même, c'est 40, la valeur numérique. Que la Torah a été donnée en 40 jours. Mais même, 40, c'est aussi 30 plus 10. 30, c'est la même, et Yud, c'est 10. Donc, c'est quoi même? C'est Li. D'accord? Maintenant, il y a une Midrash, un truc incroyable. Quand c'est marqué Vei Krouli, nous, on traduit, et vous prendrez pour moi, les Shem Shamin, vous prendrez pour moi des prélèvements pour Hachem. Mais le Zohar, il dit, Ve'ikrouli, vous me prendrez à moi. Dieu, il dit en Israël, prenez-moi. Ve'ikrouli, ils me prendront moi. D'accord? Deux points. Et comment on fait pour prendre Dieu? Torah, li. Torah, li. C'est-à-dire que si toi, tu étudies la Torah pour Dieu, en prenant la Torah, tu prends Dieu. C'est-à-dire que tu veux que Dieu soit dans ta vie, il faut prendre la Torah. Les gens disent, non. Moi, j'ai gardé les boulettes de la recette du Liban. Ouais. L'autre il dit, moi j'ai gardé l'ambiance. Je vais au festival de Cannes. Parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas, ouais. Moi je vais à Miami parce qu'il y a une ambiance. Non. Il n'y a pas écrit Miami. Il n'y a pas écrit les boulettes. Il y a écrit Teruma. Et Teruma, c'est un langage de prélèvement. Et Teruma, c'est un langage aussi de Romemout. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un il s'élève, mitromène. Alors il y a un rachis incroyable. Je ne sais plus où il est parce que c'est un rave qui me l'a cité. Il m'a dit que c'est marqué là-bas Talmide Chachamim, les gens qui étudient la Torah. Il dit Lomdim Torah ou Mitrome Mimba. C'est fait. Les gens qui étudient la Torah, ils étudient la Torah et ils s'élèvent avec. Traduction. Attention. Si quelqu'un il étudie la Torah, il fait les mathématiques, il fait les calculs, les Cheshbonot, Rachilot, Asfot, Loran, la Khatira, du Rabbi Akiva Iger, elle répond à la Stira qu'il y a dans le Raphaïm. C'est super. Ça s'appelle qu'il a fait le mou de la Torah. Mais à part ça, est-ce qu'il a été mitromène avec l'étude de la Torah? Est-ce qu'il s'est élevé? Donc quand c'est marqué Ve'ikrouli Teruma, ça veut dire qu'ils prendront de moi la Torah pour s'élever. C'est clair? C'est pareil. Maintenant, si on le rapporte par exemple dans un couple, on va avoir des discussions. D'accord? Chérie, on va avoir des discussions, toi et moi. On va poser les choses, mais je te préviens, avant de commencer, je te préviens. Je parle avec toi pour monter. Je parle avec toi pour grandir. Je parle avec toi pour régler les problèmes. Je ne parle pas avec toi pour argumenter, pour casser, pour te détruire, pour te manipuler, pour t'utiliser. Sinon, ce n'est pas la peine de parler. C'est pour ça que c'est marqué « Ve'ikrouli teruma, mikol ish asherib devenu libo ». C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu pour te rapprocher de lui, ton cœur? Qu'est-ce que tu vas offrir à ta femme, ton cœur? Qu'est-ce que tu vas offrir à ton mari, ton cœur? Qu'est-ce que tu vas offrir à tes enfants, ton cœur? Si tu donnes ton cœur, tu vas t'élever. Mais si tu veux prendre le cœur de l'autre, comment on appelle prendre le cœur de l'autre? Ça s'appelle Gezel Da'at. Gnevat Lev. Ouais. Quand toi, tu veux prendre le cœur de l'autre, ça veut dire que tu veux manipuler l'autre. Ouais. Donc, ce n'est pas Ide Venu Libo, lui. C'est Veikru Et Lev Acher. Ouais. Ça, c'est toi, tu veux prendre le cœur de l'autre. Ça, c'est des gens dangereux. Il dit, cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'on va être tous confrontés à des situations où il y aura des choix à faire, où il y aura des difficultés, il y aura des questionnements. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces questionnements? Est-ce qu'on va s'en servir pour grandir ou non? Maintenant, le doute en lui-même, il est positif si on l'utilise. Mais le même doute, il est destructeur si c'est le doute qui t'utilise. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas dans un sentiment de grandir et de régler le problème et d'avancer, c'est à soi. C'est comme si quelqu'un, il étudiait la Torah. Et quand il étudie la Torah, il va étudier la Torah, il va apprendre la Torah, il a des questions. Il dit, j'ai des questions. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et il trouve des réponses, et c'est très bien. Et c'est bien d'avoir des questions. Mais quand quelqu'un ne veut pas étudier la Torah, il dit, mais moi, vous savez, j'ai plein de questions. Moi, j'ai plein de questions. Ah bon, alors étudier la Torah. Non, je n'ai pas besoin d'étudier la Torah. Moi, j'ai plein de questions. Donc, toi, tes questions, elles sont pour t'éviter d'étudier la Torah. C'est pareil. Ta femme, c'est un sujet de Gemara. Ouais. Moi, c'est facile avec ma femme, elle s'appelle Gemara. D'accord. Mais ta femme, c'est un sujet de Gemara. Ton mari, c'est un sujet de Gemara. Alors, ta femme, elle te dit, vas-y, étudie-moi. Pose les questions que tu veux. Pose les questions. Tu veux savoir pourquoi je fais la tête, pourquoi je suis nerveuse, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis bien, pourquoi je suis pas bien, qu'est-ce qui me fait plaisir? Pose-moi des questions. Je veux que tu connaisses le sujet de ta femme, le sujet de Gemara de ta femme. Et moi, je voudrais connaître le sujet de Gemara de mon mari. Quand c'est toutes les questions que tu as, quand c'est pour avancer, mais c'est super les questions. C'est ça la communication. Communication, ça vient de commun. Commun, c'est comme un. On est commun. On est comme un parce qu'on est commun, parce qu'on communique. Donc c'est bon. Ah, si je dis, ah, non, non, préfère ne pas parler. C'est quand on commence à parler, ça se passe mal. L'autre, il le prend mal. L'autre, il s'énerve. L'autre, il m'envoie balader. De toute façon, je sais où tu vas en venir. Et ça se passe toujours mal. Alors, on préfère ne pas parler. Après, les gens, ils restent 20 ans ensemble. Ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle pense? Demande-lui. Je sais pas, elle fait la tête. Je sais même pas pourquoi je suis la vérité. Elle est comme ça. Et lui, je sais pas, il parle tout seul. Dans sa barbe, mais il n'a pas de barbe. Je ne sais même pas ce qu'il a. Je dis, mais étudie la Guémara de ton conjoint. Étudie la Guémara de tes enfants. Quand ils sont en âge de pouvoir parler, 14, 15, 16, 17, prends-leur la main, viens parler. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je veux parler avec toi. Raconte-lui un peu ta vie. Il va dire, lui aussi, il va s'ouvrir. Il va dire, papa, c'est difficile en ce moment, je n'osais pas te dire. Mais moi, je veux que tu me dises, mon fils, moi, tu crois que je vais te casser? Moi, je t'ai mis au monde, je vais te casser, je vais te détruire. Alors, papa, j'ai menti, voilà, papa, ce qui s'est passé en ce moment, ça va pas bien, je voulais te dire. Et voilà, c'est très bien. Vous allez étudier ensemble la Guémara qu'il a en ce moment de la puberté. Vous allez étudier la Guémara des problèmes personnels, des problèmes de recherche de la sexualité en individuel. Ouais. Vous allez étudier ces sujets avec lui, c'est bien. C'est une Guémara qu'il faut étudier. Ça fait partie des traités de la Guémara qui ne sont pas écrits, mais qu'il faut étudier quand même. T'as compris cette logique ou non? Donc, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Quand tu vas éclairer la personne, quand tu vas lui donner la force au niveau moral et la force au niveau de la connaissance, parce que tu vas lui dire que ça arrive et que le Yetzara c'est et que c'est comme ça et que ça existe dans la nature de l'homme et que c'est écrit dans la Torah. Donc, qu'est-ce que tu lui as donné? Les arguments. Quand le Yetzara il va venir pour lui dire, allez, vas-y, fais des avérot, allez, vas-y, laisse-toi aller. Il ne pourra pas parce qu'il sera fort. Il ne sera pas rafouille, il ne sera pas faible. Il ne sera pas désespéré, il ne sera pas angoissé, il ne sera pas dans la solitude de dire mes parents ne me comprennent pas et moi et ma mère elle s'en fiche. Il dira, je suis fort. Alors comment il va venir l'Yetzara? Il ne pourra pas. Puisque Rafouï est des Emmi la Torah, vous avez compris la logique ou non? Ça veut dire que la Torah, dans l'absolu, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Mais à un niveau inférieur, c'est quoi? Au niveau humain, ça veut dire c'est faire passer l'information, qui reste la communication, et qui est la tendresse, qui est l'investissement. Il faut qu'il y ait l'investissement dynamique. Mais si on est dans le relâchement, maintenant le relâchement parce que je suis paresseux, je ne veux pas m'occuper de mes enfants, ou le relâchement parce que je suis écœuré, je suis déçu d'eux, ouais. Ou alors le contraire, parce que j'ai autre chose à faire ailleurs, mais attention, là tu as créé un rifouille, tu as créé une faiblesse, et le vide n'existe pas. Et l'absence que tu as créée par ton absence, elle va être comblée par autre chose, et ce n'est pas forcément du bien qui va rentrer. Sauf si tu as un miracle, qui va trouver quelqu'un qui va s'occuper de lui par hasard, alors que toi tu n'es pas là pour le faire, c'est un miracle. Mais sinon lui, etc., lui il ne dort pas, hein. Il est réveillé, d'accord? Herve lo yanoum, yomam valaïla, il va s'occuper de ton cas. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? Toi simplement, tu as cette responsabilité de renforcer le terrain, de construire le terrain, de faire que la personne, elle soit à la hauteur des choses. Il dit maintenant, plus on va analyser comment il a fonctionné, comment il fonctionne le piège de Amalek, et on comprend exactement comment il fonctionne le piège du doute. Pourquoi? Vous savez que Amalek, il a trois langages. Parce que quand c'est marqué qu'ils ont rencontré, que les ministres ont rencontré Amalek, alors on dit Asher Karecha Baderer, qui t'a rencontré sur le chemin. Alors Karecha, il y a trois langages dans Rashi. Karecha, c'est Umilachon, corps, c'est la froideur. Ouais. Umilachon, un langage de Mikré, c'est le hasard. Ou alors un langage de Keri. C'est quoi Keri? C'est la semence. C'est le gaspillage de semences. C'est la pollution, c'est-à-dire les avérotes de la nudité, d'accord, de la débauche. C'est-à-dire qu'Amalek, il peut attaquer de trois manières. Amalek noir, oui. Bon, ouais. En personnel. Bon, vous voulez qu'on en parle devant tout le monde ou... Ouais, non, c'est pas le même issue, c'est pas le même issue. Non, c'est-à-dire que l'interdit lui-même par rapport à soi-même, il n'existe pas. Mais le fait qu'il y a un écoulement qui peut provoquer une touma, ça existe. On verra plus après si vous voulez dans les détails. Alors, c'est quoi l'idée? Ça, c'est très important. Amalek, oui, on a dit que puisqu'Amalek, il vient dans un vide. Donc, quand il y a un vide de connaissances, c'est comme les experts comptables, par exemple, comment ils font une embrouille légale? Parce qu'il te dit, on va profiter du vide juridique. Ouais. Il y a un vide juridique, c'est comme la loi n'a rien prévu, donc on en profite pour faire une embrouille. Ben, de la même manière, quand il y a un vide de connaissance, quand quelqu'un n'a pas la connaissance, il n'a pas une connaissance de la Torah qui lui donne une émouna qui est forte, alors il vient le safek du mikré. quand quelqu'un commence à penser, moi j'ai plein d'élèves qui sont dans les facultés. Alors on leur a enseigné que l'homme descend du singe, que Darwin il a tout expliqué, que le monde s'est fait par hasard, que je sais pas moi, c'est, que le système il marche tout seul, que bon. Encore plus, d'accord. C'est normal, c'est un peu normal. Mais c'est quoi l'idée? Ça c'est très important. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas des réponses claires, tu n'as pas donné à l'enfant ce qu'il faut comme élément pour qu'il ait une émouna claire. Parce que même chez l'égoïme, il y a les darwinismes et il y a les créationnismes. Eux-mêmes, il y en a qui pensent que le monde il a été créé, l'autre qui pense qu'il a... Mais nous, on n'a pas ce type de questionnement. Mais alors, quand quelqu'un a les éléments pour répondre, c'est pas simplement qu'il a les réponses à la question, c'est surtout qu'il a la sérénité mentale de savoir d'où il vient, comment le monde marche. Sachez que si les gens, ils prennent des antidépresseurs, ils prennent des vitamines illégales, ils prennent des drogues, ils prennent de l'alcool, c'est parce que leur vie n'a pas de sens. Pourquoi le gars il veut kiffer le présent? Parce qu'au fond la vie n'a pas de sens. Tu meurs, tu vis, de toute façon tu crèves quand même. Ouais. Tu es devenu intelligent ou t'es mort, tu peux avoir une rupture d'anévrisme. Donc comme leur vie n'a pas de sens, donc ils peuvent la gaspiller puisqu'elle n'a aucune valeur. Parce que le sens, l'essence et l'essentiel, c'est la même chose. D'accord? Mais alors quand tu donnes à un enfant des bases dans sa croyance, des bases dans sa connaissance, et tu le fais sortir de cette maladie qui s'appelle le hasard. Parce que le hasard, c'est une invention qu'on a créée pour pouvoir se permettre des choses. Si moi je dis que rien n'est au hasard, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma vie et je ne peux pas faire n'importe quoi avec la vie des autres. Je ne peux pas aller avec une femme mariée, parce que je pense que les choses ne sont pas faites par hasard. Donc elle a épousé son mari, moi j'ai épousé ma femme. Mais si je pense que le monde il est fait par hasard, c'est vachement intéressant parce que je dis, ben elle s'est mariée par hasard. Moi aussi je me suis marié par hasard. Alors je peux la prendre même si elle est mariée, parce que c'est par hasard. C'est que la personne en vérité, elle va mettre la notion intellectuelle au service de son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'elle met son cerveau au service de sa braguette. C'est ça le micré. Oui. C'est pareil. Mélachon Kor. C'est quoi un langage de froideur? C'est-à-dire que quand quelqu'un il vit un judaïsme qui est froid, il n'y a pas de éclat à voûte, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de... Bon, il vient, il fait sa prière, il met ses tefilines, il va dormir. Oui. Il faut étudier un peu de chassidut, il faut faire un peu de moussard, il faut donner du sens aux choses, il faut faire de l'ashkafa, il faut faire de la pensée juive, qui va donner un goût à la Gemara, qui va donner un goût à la prière, qui va donner un goût à ta avoda. S'il n'y a pas de goût, ouais, tu commences à rentrer dans la froideur. La froideur, c'est la clé de la tristesse, et la tristesse, c'est la clé du Yetzirah. Donc tu verras que la personne, elle peut faire la Gemara le matin et tromper sa femme l'après-midi, puisqu'il est froid. Alors que quand quelqu'un il est chaud, l'énergie qu'il a pris dans la Gemara, l'après-midi il peut pas. Il dit mais comment Hasbe Shalom, je peux pas. Parce que son cœur il bouge, son cœur il est vivant. Son cœur il n'est pas devenu en pierre, il n'est pas devenu une carte mère d'ordinateur. Donc le deuxième piège de Amalek et de Yetzirah, c'est quoi? C'est corps, c'est la froideur. Le troisième c'est Keri. Et Keri c'est le plus évident. Regardez autour de vous. Ouais, regardez autour de vous les tendances. Ils ont tellement voulu éduquer les jeunes filles pour qu'elles deviennent des hommes, que les jeunes filles sont devenues des hommes. Donc les femmes, elles ont fait des diplômes, elles ont fait des forces, elles ont fait des études. Maintenant, elles sont devenues affirmatives, elles sont devenues surdiplômées. Alors tellement elles sont devenues fortes qu'elles ne trouvent pas des hommes à leur hauteur. Donc les femmes, elles se disent, mais les hommes sont des femmes maintenant. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais je ne peux pas marier. Je rencontre des filles qui sont Bac plus 19, qui ont des têtes comme ça, qui sont affirmatives, qui sont indépendantes, qui prennent leur vie en main. Alors moi, je n'arrive pas à les rassurer. Du coup, comme les hommes n'arrivent pas à être les hommes dont les femmes ont besoin, les hommes sont devenus des femmes. Alors ils sont angoissés, ils sont débrosés, ils sont mal dans leur peau, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à prendre l'initiative, ils n'arrivent pas à se marier. Chaque fois, ils trouvent des raisons, ils se rembrouillent, ils restent chez leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des femmes. Donc les hommes, les femmes sont devenus des hommes. Les hommes sont devenus des femmes. Comme les hommes ne trouvent plus des femmes avec qui se marier, ils sont obligés de se marier avec des femmes. Avec des hommes. Au nom de l'égalité. C'est extraordinaire. C'est Amalek. C'est exactement Amalek. Parce que Mishkan Zachor, quand c'est marqué dans Amalek, dans Rashi là-bas, qu'ils avaient des rapports, ils obligeaient les hommes à avoir des rapports, on n'est pas obligé de dire qu'il est violé. Hein. C'est que les gens, ils arrivent à un certain niveau de libéralisme et d'ouverture d'esprit où ils pensent que l'homosexualité, c'est un niveau supérieur. Et quand vous êtes encore pris dans des clivages bourgeois du Moyen-Âge, de penser que le couple doit automatiquement être de bisexe, au contraire, ayez cette ouverture d'esprit, que l'amour existe entre les esprits et que les deux corps ne sont que les supports de leur, tu vois, de leur ressenti. Mais comment tu peux arriver à une ordre pareille? Mais ça, c'est la pollution de la vallée. Donc Amalek il attaque dans la débauche, Amalek il attaque dans la froideur, et Amalek il attaque dans le hasard. Maintenant, si quelqu'un il se renforce dans la Emouna, il a une Emouna très forte, il est pas rafouille, Bina Torah, ouais, il a une Emouna forte, il travaille sur sa Emouna tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le Rav Simcha Zissel, qui était Rosh Yeshiva, qui était Talmid Chacham, qui était un gadol dans la Torah, il cherchait tous les jours des preuves que la Torah est Mina Shamaim. Tu vois, enfin, il n'a pas de doute. Il veut des preuves comme quoi la Torah a été donnée par Dieu. Il cherche encore des preuves, il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est normal? Parce que la Emouna, il faut la renforcer. Il faut la développer. Les gens disent, ah bah au Hashem, anachnu ma'aminim, belé ma'aminim. Tu ne sais pas ce qu'elle te réserve la vie. Tu ne sais pas quel genre de claque tu vas prendre dans la tête. Donc il vaut mieux que tu aies une Emouna forte et une Emouna qui évolue avec ta vie. Donc tu fais évoluer ta Emouna. Donc tu étudies la Torah, tu l'appliques dans la réalité, tu regardes les événements avec un regard divin et tu avances. Et tu continues cette triangulaire et tu évolues. Donc tu restes fort. C'est comme quelqu'un, on dit, mais c'est pas parce que tu as fait du sport quand tu étais jeune que tu dois arrêter de faire du sport. Donc tu vois le gars, à 20 ans il fait du sport, à 30 ans il fait du sport, à 80 ans il fait du sport. Mais alors qu'est-ce que tu fais quand tu fais du sport? Tu fais circuler le sang. Bon, quand tu es jeune, tu fais de l'athlétisme. Et quand tu as 80 ans, tu fais un peu de marche. Mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais circuler le sang. Et donc tu vas réoxygéner le sang. Et donc tu vas faire que le corps est en mouvement. Maintenant, si ton corps physique il est en mouvement, il faut aussi que ton corps intellectuel il soit en mouvement. Donc continue à réfléchir. Fais des mots croisés. Ou mieux, si tu es juif, ouvre ta guémara. Quand tu vois des rabbanim de 102 ans, 103 ans, qui ont la tête plus rapide que des directeurs de banque et des ingénieurs, t'as compris que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas regardé la télé. Alors que l'autre qui regarde la télé 3 heures par jour, c'est normal que sa chanteuse préférée, c'est Lady Gaga. Ce qu'il est devenu lui-même, Gaga. Lui, il est Mister Gaga, il se marie avec Lady Gaga, les deux Gaga. Et les deux... Et après, quand tu poses une question, oh, je comprends rien. Vous... Ah, allez moins vite. Ah, oh, vous parlez trop vite. Et moi, je pense que je parle trop doucement. Parce que j'ai tellement à vous dire. Je devrais parler pendant 18 heures de suite. Et je ne peux pas. Alors, je viens tous les deux mois, je vous parle une heure. Les gens me disent, mais essayez de parler plus doucement. Parce que ça va trop vite. Et bien, c'est pour ça qu'on enregistre le cours. Pour que vous le réécoutiez, vous le prenez, vous le mettez par écrit, vous l'analysez et vous le vivez pendant un mois. C'est pour ça qu'on vient une fois par mois. Pour que vous travailliez tous les jours sur un morceau du cours. C'est pas pour écouter une heure tous les mois. Une heure tous les mois, qu'est-ce qu'on va faire avec une heure tous les mois? C'est comme si quelqu'un il veut grossir en mangeant 10 grammes tous les 2 ans. Il ne va jamais grossir. Comme si quelqu'un il veut apprendre à lire en apprenant une lettre tous les 3 ans. Il espère qu'il va savoir lire. Quand est-ce qu'il va finir de lire la Bible? Donc c'est pareil. Ça veut dire que la lutte contre l'ignorance, la lutte contre la froideur et la sanctification, parce que toi tu sanctifies ta tête, tu sanctifies ton corps. Tu ne regardes que ta femme, tu t'investis, tu fais attention à tes mauvaises pensées, tu pries, tu fais une prière pour qu'Hachem garde ta tête propre. Quand tu vas avec ton mari, tu penses qu'à ton mari, quand tu vas avec ta femme, tu penses qu'à ta femme. Quand tu sors du midi, tu fais des prières pour ta famille. Quand tu fais une bracha, tu fais des prières, quand tu arranges ta jupe, tu fais encore des prières. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas, tu te sanctifies, Mais quand tu te sanctifies, c'est là que tu empêches Amalek de rentrer. Comprenez ou non? Mais ne viens pas chez moi avec un décolleté comme ça, avec une jupe comme ça, et tu dis, ah ma fille, tu te rends compte ma fille, comment elle s'assoit sur les genoux des garçons. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une mère qui s'adéquette? Non, elle n'a pas vu ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Elle va faire, pourquoi elle va gérer? Ah mais moi j'ai jamais fait ça. Mais toi t'avais des limites. Mais elle les a pas parce qu'elle est jeune. C'est-à-dire que quand tu montes le niveau de tout le monde. Et quand tu baisses le niveau de tout le monde. Alors vas-y, va t'amuser maintenant. Pourquoi? Simplement à cause du vide que tu as créé. C'est-à-dire que quand tu investis dans ta maison, c'est ta maison, c'est tes enfants, c'est ton couple, on ne perd jamais. On ne perd jamais de parler, on ne perd jamais d'être gentil, on ne perd jamais d'investir, de prendre du temps pour sa famille, on ne perd jamais. C'est pareil, tu as fait un tosfot de plus, tu as fait une page de Gemara de plus, tu as fait un pasuk de plus, on ne perd jamais. C'est-à-dire que dans la Kedusha, on ne perd jamais. Dans le bien, on ne perd jamais. Dans le dialogue, on ne perd jamais. Dans la pureté, on ne perd jamais. Donc celui qui est chacham, il a compris qu'il investit et qu'il crée et qu'il calcule et qu'il avance. Ouais? Mais s'il ne le fait pas, qu'il ne vient pas pleurer, de dire, ah, il y a des conséquences. Mais évidemment qu'il y a des conséquences. Je ne prends pas l'enfant s'il pleure, c'est qu'il a faim, non? Alors donne-lui à manger. Moi, je vous dis quoi, j'avais, à chaque fois que j'allais, je demandais des brachot pour les enfants. Alors, j'ai tous les enfants, faites des brachot. Il m'a dit, ten la haine, l'ilmod ve al tefahed. Il m'a dit, donne-leur à étudier, c'est-à-dire occupe-les avec de la Torah, remplis-leur la tête et n'aie pas peur. Il y a deux conseils. Premièrement, tu leur remplis la tête avec la Torah. Deuxièmement, tu n'as pas peur. Mais si tu ne leur remplis pas la tête, tu as intérêt à avoir peur parce qu'il va se passer des choses. Et deuxièmement, même si tu leur remplis la Torah, la tête avec la Torah, il ne faut pas que tu aies peur. Parce que ta peur, elle peut leur pourrir, même la Torah que tu leur as donnée.
Peur dans quel sens?
Tu n'as pas confiance en eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose incroyable. Ça veut dire que quand quelqu'un il comprend cette logique-là, que le doute, il existe. Pourquoi? Parce que le doute, il vient du Yetzirara. Et le Yetzirara, il n'est pas mort, il est en pleine forme. D'accord? Maintenant, le Yetzirara, dans le Midrash, il s'appelle Tov. Il s'appelle bien. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il va envoyer des questionnements dans la tête, il va envoyer des problématiques dans la tête. Mais ça va dépendre comment est-ce que moi, je vais les absorber, ces problématiques. Si j'utilise les problématiques pour répondre, pour évoluer, pour grandir, parce que je veux des réponses et j'avance avec les réponses. Sur les questions sur lesquelles je peux avoir des réponses, je dois avoir des réponses. Par contre, sur les questionnements sur lesquels il n'y a pas de réponse, pourquoi ton père il est mort, il n'y a pas de réponse. Alors arrête de te prendre la tête. Ouais, ça ne sert à rien. Maintenant, tu ne sais pas, est-ce que ton fils il a fait une bêtise, il n'a pas fait une bêtise. Tu n'en sais rien, tu n'as pas de preuve, alors tu lui donnes le bénéfice du doute, il n'a pas fait de bêtise. Ah mais j'ai quand même des doutes, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, j'ai peur. Tu peux vérifier, tu peux trouver, non, tu ne peux pas trouver. Alors oublie, enlève ça de ta tête. Ce que j'ai dit à ce garçon tout à l'heure, je lui ai dit, écoute, cette fille, elle est bien, elle est pure, elle est gentille. Bon, ça lui arrive un accident, elle n'était pas dans le coup, elle n'était pas dans la religion, elle est sortie avec un copain, le gars, il a profité de sa gentillesse et de ses sentiments, il a été avec elle. Maintenant, quoi, toute sa vie, elle va porter ça sur sa tête. Maintenant, aujourd'hui, elle est bien, j'oublie là, allez, c'est pas grave, enlève les images de ta tête. Je dis, mais et les images, c'est comme si tu as vu un film porno. Maintenant, le film porno, tu vas dire que c'est ta femme dans le film. Eh bien, c'est une image dégueulasse qui n'a rien à voir avec cette fille. Elle est propre et ta tête, elle est sale, alors on va te laver la tête. Il m'a dit, j'arrive pas. Tu dis, t'arrives pas. Il y a quatre éléments. Regardez, quatre étapes dans le protocole de la décision. Réflexion, décision, amputation, cicatrisation. Je répète. Réflexion. D'abord, tu réfléchis. Après, tu décides. Après, tu amputes. Alors, je donne toujours l'exemple. Un gars, il a une gangrène du pied. Il a une maladie du pied. Le médecin dit, il faut couper le pied. Le gars, il dit, mais je ne veux pas couper le pied. Il dit, monsieur, vous avez une gangrène du pied. Vous avez trop mangé de sucre, maintenant vous avez attrapé un diabète. Le diabète, il a provoqué une gangrène du pied. Il faut couper le pied. Le gars, il dit, mais je ne veux pas couper le pied. Et pourquoi je vais me couper un pied? Et qu'est-ce que je vais faire avec ce pied? Et qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième chaussure? C'est un problème. Il dit, écoutez, on doit couper le pied. Celui-là, il peut voler des chaussures parce qu'il y a toujours le pied gauche. Il part avec le pied gauche, il se prend. Donc, on va. Mais il ne peut pas courir du coup parce qu'il manque un pied. C'est compliqué. Alors. Donc, numéro 1, il accepte, il a bien réfléchi, on doit lui couper le pied. Numéro 2, il va décider, monsieur, on va faire l'opération, vous êtes d'accord de faire l'opération? Oui, j'ai réfléchi, finalement, j'ai compris. Sinon, il va y avoir une septicémie, je vais mourir. L'infection, elle va remonter au cœur, je vais mourir. Donc, il a réfléchi qu'il fallait couper le pied. Après, il a décidé qu'il va couper le pied. Après, il va à l'opération, il coupe le pied. Ouais. Et après, il cicatrise. Maintenant, il ne peut pas cicatriser tant qu'il n'a pas amputé. Il ne peut pas amputer tant qu'il n'a pas décidé. Il ne peut pas décider tant qu'il n'a pas réfléchi. Ça va? Voilà. On change de contexte. Maintenant, celui-là, il est avec une jeune fille qui a toutes les qualités du monde, mais elle a un défaut majeur, elle n'est pas juive. Ça peut arriver. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas tellement renseignés. Et ils ont appris que la fille n'est pas juive. Mais ils sont amoureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essaient de la convertir, ça ne marche pas. Elle dit non, je ne veux pas, je n'y pense même pas. Elle veut absolument garder ses références. Et à chaque fois, on lui dit, mais d'où tu sais, tu sais? Elle dit, d'où j'ai su? Oula, c'est mauvais. D'accord, donc. Alors, il dit, mais Rav, comment je vais faire? Maintenant, je suis amoureux. Je lui dis, écoute, mon frère, elle veut se convertir ou non? Elle ne veut pas se convertir. Tu es prêt à épouser une Goya? Je ne peux pas épouser une Goya. Donc, tu vas rester comme ça. Oui, non. Ah, les rapports, un enfant qui naît, deux enfants qui naît, trois enfants qui naît. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Réflexion, décision, amputation, cicatrisation. Maintenant, je vous dis la vérité, il y en a. Ils ont quitté la Goya, mais ils n'ont pas amputé. Ils n'ont pas cicatrisé. Ils sont remariés avec une juive qu'on leur a mis vite fait. Et après, ils lui trouvent des défauts. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Et quand tu parles 3 heures avec lui, alors que ça fait 10 ans qu'il est marié avec la juive, il continue à comparer avec la Goya. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas cicatrisé, parce qu'il n'a pas amputé dans son cœur, parce qu'il n'a pas décidé, parce qu'il n'a pas réfléchi. Maintenant, dans le positif, c'est pareil aussi. Par exemple, tu décides de faire médecine, alors il va falloir amputer de rentrer à la yeshiva. Tu décides de faire la yeshiva, il va falloir amputer de. Tu as déjà perdu 50 000 euros dans cette société. Ouais. Il faut savoir dire stop. Sinon, tu vas dire, je vais encore mettre 5 000, je vais encore mettre 200 000, je vais encore mettre 300 000. Il faut que tu amputes le rêve qu'elle va marcher cette société. Parce que pour l'instant, c'est un trou. Donc, tu es capable d'amputer les 50 000 ou non? Tu vas continuer jusqu'à ce que tu mettes 4 millions d'euros. Donc, toutes les décisions, en fait, tu passeras par le même cycle. Réflexion, décision, amputation, cicatrisation. Et tout, dans les situations positives ou dans les situations négatives. Ça veut dire que la seule manière de sortir du doute, c'est d'accumuler assez de connaissances pour rentrer dans l'action. Maintenant, si ton ignorance, elle t'empêche d'agir, c'est le manque d'action qui génère le doute. Et tu commences à dire, et peut-être j'aurais dû, peut-être je le fais, peut-être je le fais pas, même si je le fais à cause de ça que je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas que je le fais. Parce que c'est parce que tu ne fais pas. Parce que tu dois agir. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué. Elle Amishpatim, Hachem il a donné les lois, c'était beaucoup de théories, et Dieu Baal Shem Tov, et juste après c'est marqué, Veikrouli Teruma, il faut un marassé, il faut une action. D'accord ? Si tu as bien réfléchi, alors, il faut rentrer à l'Yeshiva, rentre à l'Yeshiva. Il faut rentrer à la fac, rentre à la fac. Ah, je ne sais pas, viens à l'Yeshiva, viens à la fac, viens à l'Yeshiva, viens à la fac, viens à l'Yeshiva. Ça fait 4 ans maintenant, ça fait 4 ans que tu réfléchis. C'est mauvais. Ouais, alors la fille, elle est bien, elle est sérieuse, elle est positive, épouse-la. Ah, et peut-être je peux avoir mieux, et peut-être elle est trop jeune, et peut-être mes parents ne vont pas accepter. Ah, elle est tunisienne, elle est marocaine, algérienne, Et l'autre, elle en a eu marre, elle est partie. Elle en a marre, déjà elle en a marre. Tu sais pas ce que tu veux? Oui, non, oui. Ah, peut-être, j'ose pas parler à mes parents. Je sais pas, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Mais on couche ensemble, tu me demandes si on est fait l'un pour l'autre? Tu profites du doute, toi. Ça s'appelle le bénéfice du doute. Donc ça veut dire, en total, c'est très simple. Tu ne laisses pas le vide s'installer. Tu le combles avec la connaissance. Tu le combles avec l'assurance. Tu le combles avec le bien-être. Tu le combles avec la Torah. Après, tu rentres dans l'action. Maintenant, si tu es toujours dans une dynamique de connaissance et une dynamique d'action, il n'y a pas de vide. Comme il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace pour le doute. Mais si tu laisses le vide, tu installes l'ignorance, tu maintiens le malaise, tu maintiens la distance, après, il commence à devenir des doutes, après, ils deviennent des angoisses, après, ils deviennent des obsessions, après, ils deviennent des phobies. Après, il devient une maladie. Et là, effectivement, je vous dis, c'est une maladie. Là, le doute, il devient vraiment une maladie. Hazmi Shalom, ouais. Mais normalement, on a envie de sortir de ça. Que c'est interdit pour un juif de rester dans le doute. Si c'est une question d'Alacha, tu demandes à un Dayan. Si c'est une question d'Ashkafa, de pensée juive, tu demandes à un Rav qui te conseille. Si c'est une question de psychologie, tu demandes. Si c'est une question de maladie, tu vas faire d'abord un diagnostic vrai. Avec un bon médecin, et après tu décides, est-ce que tu veux faire de la médecine traditionnelle, est-ce que tu vas faire de la médecine naturelle, mais déjà que tu aies un diagnostic. Mais tu dis, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas, j'ai mal là. Je vois des gens pendant 2 ans, j'ai mal, mais j'ose pas demander, j'ose pas vérifier. Mais Yabrel, peut-être qu'on aurait pu le régler quand c'était petit. Maintenant que la tumeur, c'est une orange, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu n'es pas malade d'une tumeur, tu n'es malade d'avoir peur d'être malade. Mais quand tu dis la maladie, c'est une parole, c'est une parole qu'on t'envoie. C'est ça la maladie. Le mal a dit. Maintenant, j'accepte la communication. Je dis, j'accepte la parole. Hachem, il m'a parlé dans la maladie. Il me parle. Alors, je prends la maladie. Il me dit, ah, peut-être il me dit stop. Peut-être il me dit, change de rythme de vie. Peut-être il me dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être il me dit, ça y est, tu n'as plus 20 ans. Peut-être il me dit, le corps, il me parle. Maintenant, laisse parler le corps et réponds-lui. Tu dis, non, je ne lui réponds pas. Je mets des piqûres, je prends des doliprane, je prends des cachets, de la morphine. Et je crois qu'il dit, le... Après, tu dis, c'est bizarre. Eh bien, écoutez, il s'est évanoui, ça fait 2 ans. On dirait que le corps, il a dit maintenant, tu te reposes, Beschif. Tu te reposes. Ouais. Il y a des gens qui sont obligés de faire un break dans leur couple. Genre, leur couple, il a besoin de repos. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un enfant malade pour se rapprocher. Il y en a, ils ont besoin d'un dépôt de bilan pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est quoi les valeurs. Mais pourquoi tu as besoin de ça? Simplement parce que tu n'as pas fait le travail comme il fallait faire. Allez, comme à l'école, tu travailles régulièrement, tu révises tes cours, tu prépares tes examens, tu réussis. Non, toi, tu fous rien. Après, on arrive à 2 mois, tu dis, ah, comment je vais faire? Rav, faites-moi une bracha. Quelle bracha tu veux? Mais j'ai rien fait. Tu n'as rien fait, c'est vrai? Oui, répète après moi. It gadal, vit gadal, shemira. Travaille régulièrement. Révise régulièrement. Et tu vas réussir. Les examens sont d'un niveau moyen pour des élèves moyens qui travaillent de manière moyenne. Donc, ceux qui sont au-dessus, ils vont choisir la fac où ils vont aller. Et tous les glandeurs, ils diront que l'examen était difficile cette année. Et bien la vie, c'est pareil. La femme que tu as en face de toi, elle est adaptée à toi. Le mari que tu as, il est adapté à toi. Même ta communauté, elle est adaptée à toi. Ouais. Si tu veux passer de Milan à, je sais pas moi, à Arnov, dans un quartier de Hassidim, tu n'es pas adapté. Donc tu vas souffrir pour rien. C'est pas adapté. D'accord. Chacun, il va comprendre qu'en fin de compte, la réalité qu'Hachem lui a donnée, il doit en tirer le meilleur. Et peut-être que quand tu auras prélevé le meilleur de là où tu es, ça veut dire que tu devras aller ailleurs. C'est comme ça la vie. Comme tes enfants, ils ont pris le meilleur de ce qu'ils pouvaient, et maintenant ils vont grandir avec leur mari. Après, ils vont grandir avec leur mari, ils vont grandir avec leurs enfants. Après, ils vont grandir avec leurs petits-enfants. C'est des étapes de la vie qui sont nécessaires. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une étape qui va se présenter, si moi j'adhère avec l'étape parce que j'ai la Emouna, il n'y a pas d'espace pour le doute. Mais si moi j'adhère pas parce qu'il n'y a pas la Emouna, que c'est mon mari, que c'est ma femme, que c'est mon Dieu, que c'est mon épreuve, que je peux grandir avec, que je vais réussir avec, s'il n'y a pas, je ne colle pas, c'est-à-dire je n'embraye pas, je passe pas la vitesse, alors le moteur il patine, il reste sur place la voiture. Et là, je commence à réfléchir. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que c'est l'embrayage qui est mort? Est-ce que c'est la voie de vitesse qui est mort? Est-ce que c'est le moteur qui est mort? Mais il y a bref, l'embraye. Elle roule. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de maintenir une dynamique de connaissance, une dynamique de Emouna, une dynamique de Simcha, pour pas qu'il y ait d'espace pour que Amalek puisse prendre la place. Et à ce moment-là, Chas v'Shalom, on n'a pas besoin de se soigner du doute parce qu'il n'y aura pas de doute. Oui. Par contre, les gens qui vont créer ce vide-là, alors il faut s'attendre un jour ou l'autre que le doute il va apparaître. Et là encore une fois, ils vont se tromper parce qu'ils voudront répondre à la question qui se sont posées, alors qu'en fait c'est pas la question qui est dangereuse, c'est le terrain qui les a amenés à avoir la question. Hazak ou Baro, on a 5 minutes d'avance, mais la batterie est morte. Bon, heureusement que je suis là. On va dédier le cours pour la Rif pour la Shelema, donc de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Batzlecha, Gabriel Eliezer Ben, Yael.
Amen.
Amos Ben, Hilda,
Amen.
Est-ce qu'il y a d'autres?
Ephrat Bat Hamsa,
Amen. Hamsana,
Amen.
Amen.
Shaul
Ben Hilda, les malades. Hein? Shaul Ben Hilda, et qui encore? Il n'y a pas de malade à Milan, bon, c'est normal, on est là pour vivre Milan. Donc Hachem, il envoie une bonne santé à tous les malades d'Israël, et aussi qu'on dédie ce cours les Ilum Nishmat de tous les tzadikim qui nous ont quittés. Avec en particulier Abraham Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, pour les Nistarim, Rav Obadiah Yosef, Rav Kadouri, Rav Hillel Pesner,
Doris Bat Eliza, Amen.
Pareil, comme tu
veux. Doris Bat Eliza,
Doris Bat Eliza, Amen.
Rina Bat Eliza,
Rina Bat Eliza,
Amen.
Abraham
Ben Zbira.
Amen. Esmeralda. Amen. On peut faire un vide tout de suite.
Oui, oui.